Bonsoir, bienvenue à l'espace Mendès France. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir des chercheurs en psychologie sociale qui travaillent à l'Université de Poitiers, plus exactement au laboratoire, le centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, le CERCA. Et c'est vrai que pour l'espace Mendès France, on va parler de sciences, mais aujourd'hui de sciences sociales, donc c'est très très bien, et sur un thème qui intéresse tout le monde, la réussite et l'échec scolaire. Donc je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Claude Croiset, qui est professeur au centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, et puis également donc à deux personnes qui l'accompagnent, Frédéric Autin et donc Alice Normand. Voilà, donc je vous laisse la parole et puis bien sûr après leur exposé, j'espère qu'il y aura plein de questions auxquelles ils prendront un plaisir à vous répondre.
Merci, merci beaucoup d'être venu. Merci à l'espace Mendès France de nous offrir cette opportunité de présenter quelques-uns de nos travaux. Donc comme vous l'avez indiqué, nous sommes trois chercheurs du Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, qui est un centre de recherche de l'Université de Poitiers. C'est une unité mixte de recherche associée au CNRS, dans laquelle on trouve plusieurs équipes. Et donc les travaux que l'on va vous présenter aujourd'hui sont des travaux qui ont été réalisés dans le cadre d'une de ces équipes. Les recherches qu'on va vous présenter, en fait, elles ont pu être réalisées grâce au soutien de la région Poitou-Charentes, qui a financé en fait un certain nombre d'opérations de recherche, mais également qui a financé des contrats pour les doctorants, donc Alice et Frédéric. Et également, ces recherches ont été réalisées grâce en fait à l'aide, de collègues enseignants, de collèges, de parents qui ont bien voulu que leurs enfants participent à nos recherches, et puis en fait aux équipes administratives et pédagogiques de ces établissements. Donc les recherches qu'on va vous présenter sont issues d'une discipline qui est... Pardon. Qui est la psychologie sociale. Cette psychologie sociale... est une branche de la psychologie, c'est une branche dans laquelle on réalise des recherches expérimentales. Donc les travaux qu'on va vous présenter sont des travaux de laboratoire. Alors des fois le laboratoire, il reste au laboratoire, mais des fois le laboratoire on le transporte dans les établissements. Alors on ne déplace pas des murs, c'est on déplace en fait une méthode de travail et on va essayer de vous donner un peu une illustration de la manière dont nous travaillons. L'hypothèse sur laquelle nous avons réalisé ces recherches postule que dans notre société, il existe une croyance, il existe de nombreuses croyances, mais il existe une croyance sur les causes de l'échec scolaire, que je vais développer dans quelques instants. Et cette croyance, en fait, c'est en tout cas la thèse qu'on va essayer de défendre aujourd'hui, a des effets néfastes, a des effets négatifs. Elle a des effets négatifs particulièrement sur les performances, sur la réussite des élèves, et tout particulièrement des élèves qui sont en difficulté. Donc notre objectif, ça va être de montrer que cette dynamique, c'est-à-dire comment l'existence de cette croyance influence la performance des élèves. Alors cette croyance, elle trouve son origine dans l'idéologie méritocratique, dont on peut trouver une illustration en fait dans cette citation qui est un peu longue et je vous prie de bien vouloir m'excuser, elle est tirée en fait du plan Langevin-Wallon qui était une des mesures qui a été prise au lendemain donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, un ensemble de mesures très 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 progressistes dans laquelle en fait on a essayé de rétablir de profiter donc de la fin de la guerre pour restaurer de la justice. La justice sociale, et l'idée que l'on retrouve dans cette citation, c'est que, je vais la lire, tous les enfants, quelles que soient leurs origines familiales, sociales, ethniques, ont un droit égal au développement maximum que leur personnalité comporte. Ils ne doivent trouver d'autres limitations que leurs aptitudes. L'enseignement doit donc offrir à tous d'égales possibilités de développement, ouvrir à tous l'accès à la culture. L'introduction de la justice à l'école, par la démocratisation de l'enseignement, mettra chacun à la place que lui assigne ses aptitudes pour le plus grand bien de tous. La diversification des fonctions sera commandée non plus par la fortune ou la classe sociale, mais par la capacité à remplir la fonction. Donc ça, c'est une prise de position qui est courageuse, qui est de dire, en fait, on a une société, on avait une société, on a eu tendance à avoir une société qui est structurée, eh bien, par des facteurs structuraux, sociaux, la richesse, l'origine sociale. Et ce qu'on veut, c'est en fait rétablir un petit peu de justice et donc créer une école qui va permettre en fait de sélectionner les enfants, non pas sur la base de leur origine sociale, mais sur la base de leur mérite individuel. Alors, eh bien, cette mission, elle va être confiée à l'école. Et donc, l'école, elle accueille des élèves. Et ces élèves, en fait, elle va être conduite eh bien, à leur transmettre des connaissances, mais également à opérer sur ces élèves en fait, des classements. Donc, ces classements vont consister en fait, à établir, à partir des performances des élèves, eh bien, des hiérarchies. Hiérarchies, en fait, qui sont censées en fait, refléter eh bien, le mérite individuel, c'est-à-dire les capacités des élèves, leurs compétences, les efforts qu'ils fournissent, leur motivation. Et donc de distribuer eh bien, les positions sociales sur la base de ce mérite et non plus en fonction de la fortune, pour reprendre la formule de la citation, ou de la classe sociale. Alors, pour cela, l'école va avoir recours à plusieurs dispositifs. Alors, je suis désolé, mais... Elle va avoir recours à plusieurs dispositifs. Un des dispositifs qui est le plus important, c'est en fait la situation d'examen. La situation d'examen, c'est une situation très particulière dans laquelle, en fait, des élèves sont confrontés à un problème qui leur est posé. Le problème est le même pour tous. Les élèves disposent, en fait, du même matériel au départ. Ils ont été scolarisés dans la classe, ont suivi les cours, ont eu les mêmes exercices. Et ils disposent ensuite, au cours de cette tâche, en fait, de la même, du même temps pour réaliser l'examen. Et donc, l'idée, c'est qu'en fait, ces situations eh bien, permettent de constituer en fait, une illustration du principe d'égalité à l'école. C'est-à-dire que les élèves vont être traités de la même manière et l'objectif va être d'utiliser les différences de performance eh bien, pour ensuite classer les élèves. Alors, quand on regarde maintenant comment se distribuent les performances scolaires, on est confronté à des phénomènes qui sont problématiques. Alors, problématiques par rapport à la position qui est que si on organise la société sur la base du mérite individuel, eh bien, on aboutit à une société qui est plus juste, dans le sens où en fait, ce n'est plus une société qui est basée sur la fortune ou l'origine sociale. Alors, je vais vous présenter là des données, des statistiques. Ce sont ici des statistiques qui ont été collectées il y a quelques années déjà. En 1965, donc une grande enquête nationale réalisée par l'INED, et donc l'INETOP, sur le niveau intellectuel des élèves. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait passer des tests de QI, des tests, qu'on dit des tests d'intelligence. Et en fait, on observe les choses suivantes. C'est que si on regarde, ici vous avez en fait le QI des élèves en fonction de la profession de leurs parents. Donc un QI, c'est une note qui en fait a pour moyenne 100, et puis qui peut monter comme ça, 115, 120, et puis qui peut également descendre. Et là, on observe quelque chose de tout à fait troublant, c'est que on peut voir que la hiérarchie des QI, donc la colonne de chiffres à votre droite, reproduit exactement la hiérarchie que l'on peut trouver en fait dans le monde du travail. Autrement dit, que les enfants eh bien, semblent exprimer un mérite individuel qui est assez relié en fait, à leur classe sociale d'origine, ou, et ça va revenir un peu à la même chose, ou à la fortune des parents. Alors ça, ce sont des données qui sont assez anciennes. On peut regarder comment les choses se passent maintenant plus récemment. Là, je vais vous présenter en fait les scores en fait que les enfants obtiennent à l'évaluation nationale. Vous savez qu'en fait, il y a eu un certain nombre de tentatives en fait d'évaluer le niveau de compétence des élèves en fonction de tout un tas de paramètres, etc., pour fournir en fait d'une part à la nation, mais également aux enseignants, eh bien une idée, une photo du niveau de compétence en fait des élèves et éventuellement d'adapter leur programme sur cette base-là, eh bien, on voit encore une fois que le score qui est obtenu par les enfants est très très fortement relié, corrélé avec la profession de leurs parents. Les enfants d'ouvriers réussissent moins bien que les enfants de cadres supérieurs. Ça, ce sont des résultats obtenus dès le CE2. On peut regarder maintenant des résultats pour ce qui concerne le collège, la première année de collège, et on retrouve exactement la même relation. C'est-à-dire que il semble que le mérite est fortement associé à l'origine sociale. Alors, on va essayer de prendre un exemple qui va en fait nous servir de fil conducteur dans cette présentation pour vous présenter nos travaux. Donc, on va imaginer que l'on donne à des enfants en fait un problème à résoudre, par exemple celui d'un problème d'arithmétique. Et donc, les enfants vont réaliser ce problème-là. Et on va observer que tous les enfants n'ont pas le même niveau de performance. Certains vont réussir cet exercice alors que d'autres ne vont pas trouver la solution. Alors comment est-ce qu'on interprète ces écarts de performance ? Eh bien généralement, on considère qu'il existe, en gros, de manière un peu caricaturale, deux types de facteurs explicatifs des différences de performance. Des facteurs qui sont internes à l'élève, par exemple la motivation, et les capacités. Alors les capacités, on peut dire les capacités, certains diront celui-là a des facilités, ou celle-là est plus intelligente, enfin donc une déclinaison de concepts, mais qu'on retrouve autour de l'idée de capacité. Et puis on trouvera également des facteurs externes à l'élève, donc par exemple le milieu familial, on dira de tel élève, oui bon il réussit pas, mais bon, lui il est, c'est un enfant qui grandit dans un milieu qui est pas favorisé, il n'est pas aidé, donc... Cela pouvant expliquer ces difficultés. Ou on dira, tel élève, oui, bon, il ne travaille pas, mais il a de mauvaises fréquentations, etc., etc. Ou on pourrait dire, l'enseignant n'a pas su trouver la méthode, etc. Donc, la croyance à laquelle je faisais référence tout au début de mon introduction, c'est la croyance implicite suivante. Alors, je vais l'appeler théorie naïve, dans le sens où c'est pas une théorie qui est bête, c'est-à-dire que les gens qui ont... C'est-à-dire quand nous pensons dans ces termes-là, ça ne veut pas dire qu'on est des personnes incultes et qu'on n'a rien compris. C'est simplement naïf au sens où ce n'est pas une théorie scientifique. Ça va être un petit peu caricatural ce que je vais dire. Excusez-moi et acceptez-le pendant quelques minutes pour ma démonstration. Donc cette croyance implicite, cette théorie naïve est la suivante. En fait, c'est que les facteurs externes, par exemple le milieu familial, l'influence des camarades, l'influence des enseignants, c'est bien quelque chose qui joue sur la performance des élèves, donc qui peut expliquer les différences de performance, mais ça ne joue pas sur la performance directement. Ça va jouer sur les facteurs internes. C'est-à-dire que, je prends l'exemple du milieu familial, eh bien, les enfants qui grandissent dans des milieux dotés en capital culturel, pour reprendre une expression... cher aux sociologues, mais qui donc disposent de livres, qui ont un rapport à la culture écrite qui est celui des classes qu'on dit favorisées, eh bien ces enfants-là vont développer des capacités, et ces capacités, eh bien ils vont les amener à l'école, et donc ils seront plus performants à l'école parce qu'ils auront développé des capacités. Généralement, donc, quand on considère l'influence des facteurs externes, c'est en ces termes. C'est-à-dire que les facteurs externes n'agiraient pas directement sur la performance, mais ils agiraient sur le développement des compétences, des capacités. Alors, quand je dis c'est une théorie naïve, c'est une théorie naïve qui est partagée par plein de gens. Elle est partagée socialement. Elle est aussi partagée par beaucoup de scientifiques. Alors, je vais vous montrer un exemple d'illustration en fait, de l'application de cette croyance implicite en fait, à des opérations de recherche. Alors, je suis désolé, mais là, j'ai un titre et j'ai un texte qui est en anglais. Alors, je ne vous demande pas de le lire. Je ne vais pas faire une traduction. Je vais simplement vous expliquer ce qui se passe. Donc, des recherches très récentes, donc réalisées par une équipe de l'Université de Berkeley en 2009, donc publiées il y a quelques mois, dans le journal de neurosciences cognitives. Eh bien, dans cet article, alors... dont on fait la promotion en fait, dans ce magazine scientifique, eh bien, établit une relation entre l'origine sociale des enfants et le fonctionnement du cerveau. Ce que vont soutenir les auteurs, c'est qu'en fait, ils vont prendre des enfants, et puis de milieux favorisés ou défavorisés, Ils vont leur demander de réaliser certaines tâches, et pendant qu'ils font ça, en fait, ils vont utiliser des techniques d'imagerie moderne pour aller regarder comment fonctionne leur cerveau. Ils vont observer eh bien, qu'il y a une différence dans le fonctionnement des enfants pauvres. Cette différence se traduisant de la manière suivante, pour ces chercheurs, en fait, l'activité cérébrale des enfants pauvres, je traduis la ligne en rouge, ressemble en fait à l'activité de personnes qui auraient eu un accident cardiovasculaire cérébral. Le chercheur qui est à la tête de cette unité prestigieuse dit la chose suivante, que les enfants issus de milieux socio-économiques défavorisés donc, témoignent d'une activité physiologique cérébrale qui est similaire, qui ressemble en fait à quelqu'un qui aurait eu une lésion au lobe frontal. Alors il précise bien sûr, je ne suis pas en train de dire que tous les enfants issus de milieux défavorisés présentent ce trouble-là, mais en fait, en termes de probabilité, eh bien, on sait que en moyenne, les enfants issus de milieux défavorisés sembleraient avoir ce pattern d'activité au niveau physiologique. Alors, l'idée étant que si on observe des différences de performance et que ces différences de performance entre les élèves s'expliquent uniquement par l'expression de facteurs internes qui ont été plus ou moins affectés par l'environnement, donc d'une motivation importante ou des capacités plus ou moins importantes, eh bien, il est tout à fait légitime de procéder à des classements scolaires. C'est-à-dire, on peut regretter, je vais être un petit peu provocateur, mais on pourrait regretter que les enfants issus de milieux défavorisés ne soient pas plus intelligents, mais en fait, on va quand même classer les élèves sur la base de leurs performances, parce qu'on sait que les performances traduisent des différences de capacité. Donc on regrettera, si vous voulez, qu'il n'y ait pas plus d'égalité dans la manière dont les gens sont dotés, mais en tout cas, on ne remet pas en cause la manière dont la signification de la performance. La performance nous renseigne sur des différences de capacité ou de motivation. Alors, les recherches que nous allons vous présenter nous conduisent cependant à remettre en cause cette idée. Alors, bien entendu, quand je dis ça, je n'ai pas la prétention de vous dire « nous, on a tout compris, tous les autres sont bêtes, etc. » Des fois, on le pense, mais c'est simplement qu'on se laisse aller. On va essayer de montrer comment les inégalités sociales opèrent dans les situations de classe et comment on peut être amené en fait à questionner cette croyance implicite selon laquelle la performance scolaire est le reflet des seules capacités ou motivations des élèves. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter comment des exemples de recherche que nous avons conduits qui attestent que les situations d'évaluation influencent le niveau de performance en fonction de l'origine sociale. Alors, dans ces études, on a travaillé avec des jeunes adultes. Donc, moi, je vais vous présenter quelques études sur les jeunes adultes. Et puis ensuite, vous verrez, on présentera des études, des expériences qui ont été réalisées sur des collégiens, notamment. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on donne à nos jeunes adultes des exercices à réaliser. Les exercices, on peut les inventer soi-même. On peut aussi les emprunter directement, en fait, à des batteries d'exercices qui existent, ou voire à des tests. À des tests, quand je dis tests, je pense à des tests, notamment tests qu'on appelle les tests d'intelligence, les tests de QI. Donc, vous avez un exemple ici de problème qui est utilisé. C'est du raisonnement logique, c'est des analogies. Donc, le problème se traite de la manière suivante. On se dit mercenaire est argent, et puis il faut trouver une paire dans les 5 qui sont proposées qui exprime le même type de relation que celle qui est donnée dans l'exemple. Et donc, il faut trouver une règle logique qui permet d'exclure toutes les autres paires sauf une seule. Donc, bon, ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. Je vous donne tout de suite la réponse. La bonne réponse est rancunier et revanche. Ça prend du temps, c'est difficile. C'est difficile. Et c'est difficile pour tout le monde. Hein. Je crois que c'est important de le voir. Un autre exemple d'item que l'on utilise, ce sont un item tiré d'un test d'intelligence qui a mis en évidence, enfin un test d'intelligence, donc du raisonnement logique, mais ici qui ne fait pas appel en fait à des mots. Alors voilà le type d'exemple d'expérience que l'on réalise. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander à des élèves de réaliser ces exercices. Ces élèves, on va les sélectionner en fonction en fait, de leur origine sociale. Vous allez avoir en bleu les élèves qui sont issus de statuts socio-économiques faibles, donc des enfants dont les parents exercent des professions peu qualifiées, donc dont les parents sont peu diplômés, et puis on va comparer la performance de ces élèves à des élèves dont les parents sont issus de ce statut socio-économique plus élevé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner exactement le même exercice, mais ce qu'on va manipuler, on va manipuler la présentation de la tâche, de l'exercice. C'est-à-dire l'exercice reste le même, les gens doivent faire exactement la même chose. La seule chose qui va changer, c'est la représentation qu'ils ont de la tâche. Donc dans une condition, qui sera la condition évaluative, nous allons dire aux élèves, eh bien en fait, tu vas réaliser une tâche, et cette tâche-là, en fait, est un test qui va mesurer tes capacités, qui va mesurer ton intelligence. C'est la condition évaluative. Et puis dans une autre condition, on leur dit, tu vas réaliser une tâche, cette tâche n'est pas un test d'intelligence, on ne cherche pas du tout à t'évaluer. Nous, en fait, on utilise ces tests, ces tâches, parce qu'on cherche à tester des hypothèses scientifiques, mais sur le fonctionnement général de l'être humain. D'accord ? Donc les gens réalisent ces tâches, et voici les résultats que nous observons. Donc, lorsque la tâche est présentée comme une évaluation, les élèves de statut socio-économique faible réussissent moins bien que les élèves de statut socio-économique élevé. Alors ça, c'est pas une nouveauté. Ce qui est plus intéressant, c'est que lorsque la même tâche est présentée d'une manière qui n'est pas évaluative des capacités, eh bien, le niveau de performance change. Le niveau de performance change, les élèves issus de statut socio-économique faible réussissent beaucoup mieux la tâche, et on observe, dans cette étude, l'effet n'est pas significatif. Quand je parle de l'effet, c'est l'écart qu'il y a entre cette barre rouge et celle-ci. Mais on observe un tassement. Et on verra que sur l'ensemble des études, eh bien, ce tassement en fait, s'avère être significatif. Alors, je ne vais pas le détailler, mais on a observé ce pattern de résultats dans de nombreuses études. On voit une deuxième, une troisième, une quatrième. On observe systématiquement cet effet. Deux choses rapidement, avant de céder la parole à Frédéric. L'idée que l'on va, sur laquelle on va travailler, c'est que la situation d'évaluation n'est pas une situation neutre. La situation d'évaluation n'est pas une situation neutre parce qu'il semble que, d'après les recherches que l'on conduit, eh bien que selon le statut que l'on a, on réussit plus ou moins bien en fonction de ces situations. L'hypothèse que l'on a développée, la suivante, c'est que si on a un statut faible, pour mille et une raisons, et on verra des exemples, eh bien, cela déclenche en fait un stress, une anxiété, qui va avoir des effets négatifs sur la performance. Si on appartient au contraire à un groupe, ou si on a un statut dans la classe qui est plus élevé, plus favorable, eh bien en fait ça va nous donner davantage de confiance en soi, et cela va avoir un effet positif sur la performance. Autrement dit, ce que ces résultats mettent en évidence, c'est que la situation d'évaluation ne ressemble pas à ça, elle ressemble à quelque chose qui est comme ça. En fait, c'est une situation qui semble favoriser les élèves qui en fait ont plutôt des réputations positives et à défavoriser des élèves qui ont des réputations plutôt négatives. Alors, les situations de classe, là je vous ai parlé en fait de la relation avec l'origine sociale, ces informations donc concernant la supériorité des uns et l'infériorité des autres sont omniprésentes à l'école. Elles proviennent des classements scolaires, c'est-à-dire lorsque les élèves reçoivent leur bulletin, et puis il y en a un paquet qui vont le recevoir dans quelques jours, là, enfin les parents, eh bien, ils savent qu'ils sont à un certain niveau dans leur classe. Donc on rencontre souvent des enfants, on en a rencontré, et puis même on en a fait certains, pour moi en ce qui me concerne, qui nous tiennent des discours comme celui-là. Ben non, je suis pas fort en maths, je suis nul en maths, ou alors en français, je suis bon ou je suis bonne en français, ou ce genre de discours. Donc les élèves ont bien intériorisé cette croyance implicite que mon niveau de performance me dit ce que je vaux, me dit qui je suis. Et puis, si les élèves ne l'ont pas compris tout seul, eh ben, on le retrouve bien sûr dans la bouche des enseignants, à qui on jette, enfin je ne jette pas la pierre, je suis enseignant moi-même, on la retrouve dans la bouche des parents, je suis moi-même un parent, ben, c'est une excellente élève, c'est un élève faible, donc on véhicule ce genre de choses. Mais on va voir que en fait, les situations de classe donnent des informations sur les classements qui sont beaucoup plus subtiles que celles que l'on peut obtenir directement à travers les notes et les bulletins. Par exemple, lorsque l'enseignant dit « qui a fini l'exercice ?» et que les enfants lèvent la main, eh bien ceux qui lèvent la main versus ceux qui ne lèvent pas la main, eh bien apprennent dans cette situation quelque chose. ils apprennent que, eh bien, ils sont classés. Ils sont classés, alors c'est des classements qui sont très, très éphémères, qui durent juste peut-être une interaction, mais qui peuvent se répéter et engendrer les effets que l'on va, qu'on va voir. Dernière chose, c'est qu'en fait, ces situations de comparaison, ce qu'on va appeler ça des situations de comparaison, eh bien, elles renseignent l'élève sur sa position dans la classe, dans la hiérarchie de la classe. Quand je dis la hiérarchie de la classe, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais cette idée que dans la classe, eh bien, il y a un classement des élèves. Ce classement n'est pas nécessairement fixé pour toute l'année, mais il est en fait connu des élèves. Les élèves savent qui est le meilleur, entre guillemets, dans leur classe, qui est dans le peloton de tête et qui est en fait en fin de peloton. Et notre idée, c'est que ces informations, eh bien, elles amènent les élèves à se poser des questions sur leur image de soi. Et le fait de se poser ces questions, eh bien, va gêner, c'est notre hypothèse, va gêner leurs apprentissages et leurs performances. Donc je vais tout de suite, sans plus tarder, passer la parole à Frédéric, qui va vous présenter en fait, des recherches qui vont illustrer cette idée.
Merci.
On fait les chaises musicales.
Donc nous sommes partis de l'idée selon laquelle la croyance qui est répandue dans la société, que les élèves partagent avec les enseignants et les parents, et nous tous, donc la croyance selon laquelle les performances scolaires sont avant tout l'expression des capacités intellectuelles, on va essayer d'examiner comment cette croyance peut gêner les enfants dans les situations d'apprentissage et les situations d'évaluation. L'idée, c'est que cette croyance amène les élèves qui rencontrent des difficultés à interroger leur intelligence. En fait, les enfants, quand ils sont confrontés à des difficultés, vont se dire « si j'ai des difficultés alors que les autres y arrivent, c'est sans doute qu'à moi, il me manque quelque chose. Je dois manquer d'intelligence, je ne dois pas être assez fort. » Ça crée donc un sentiment d'infériorité qui remet en cause leur image de soi. Tout ça, ça génère des doutes, des pensées négatives. C'est-à-dire que l'enfant se dit « moi, je suis nul. Pourquoi est-ce que moi, j'y arrive pas? Je dois pas être doué pour ça. Je suis pas assez fort. » Et toutes ces pensées négatives, comme ça, vont mobiliser une partie de l'attention de l'enfant. Donc, il va passer une partie de son attention à penser à ces choses plutôt négatives, ce qui fait que son attention, du coup, sera moins disponible pour réaliser l'exercice qu'on lui demande de faire, ce qui se traduira, du coup, par une baisse de performance. Dans notre travail, on va essayer de voir comment on pourrait lutter contre cette croyance pour voir si ça peut améliorer la performance des enfants. Donc pour ça, on a créé une intervention, on est intervenu auprès des enfants pour lutter contre ce préjugé, cette croyance qui veut que quand on échoue, ça veut dire qu'on manque de capacité. Et on a donc créé une intervention pour remplacer cette croyance par une autre croyance qui éviterait le sentiment d'infériorité. Donc on va leur donner une nouvelle interprétation pour leurs difficultés. Au lieu de les laisser croire que leurs difficultés veulent dire qu'ils manquent d'intelligence, on va expliquer aux enfants que les difficultés sont une étape normale au cours du processus d'apprentissage. On leur dit qu'avoir des difficultés, ça ne veut rien dire sur ce qu'on est, ça veut juste dire qu'on est en train de découvrir l'exercice, qu'on ne sait pas encore le faire. Pour exemplifier ce discours, on prend l'exemple du vélo, parce qu'on se souvient tous quand on a appris à faire du vélo, et les enfants s'en souviennent aussi très bien. Et les enfants se souviennent très bien avoir trouvé ça difficile au début. Ils se souviennent être tombés, avoir eu besoin de l'aide de leurs parents pour apprendre à faire du vélo. Et ils se souviennent aussi avoir trouvé ça normal de trouver ça difficile de faire du vélo. Donc nous, ce qu'on leur explique, c'est que les apprentissages scolaires, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, quand on essaye et qu'on ne sait pas faire, on trouve ça dur. Mais c'est normal. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bien que les autres. C'est juste qu'on a besoin de temps pour s'entraîner, pour découvrir la tâche, pour la maîtriser. À travers cette intervention, ce qu'on explique aux enfants, c'est que donc leurs difficultés ne sont pas informatives de leur niveau d'intelligence. Ça n'a rien à voir. C'est juste le processus d'apprentissage qui suit son cours. On devrait donc rendre ces difficultés moins menaçantes pour l'image de soi des enfants. On devrait éviter le sentiment d'infériorité et ainsi éviter les doutes et les pensées négatives et ainsi permettre à l'attention de l'enfant de se focaliser complètement sur la tâche qu'on lui demande de réaliser et améliorer la performance. Alors, pour tester cette belle hypothèse, nous avons réalisé une première étude pour voir l'effet global. Est-ce que, quand on explique aux enfants que la difficulté, c'est normal, c'est comme le vélo, ça s'apprend, est-ce que quand on explique ça aux enfants, ça leur permet effectivement de mieux réussir ? Pour tester cette hypothèse, on a réalisé une étude avec 55 élèves de 6e des collèges de Poitiers et on a créé deux groupes. Un groupe, alors dans les deux groupes, les enfants sont mis en difficulté avec des exercices difficiles. À la moitié de ces enfants, on va leur faire donc ce qu'on va appeler cette intervention, on va leur expliquer que leurs difficultés qu'ils rencontrent là tout de suite, elles sont normales. C'est parce qu'ils ne connaissent pas bien l'exercice et que les apprentissages scolaires, c'est comme le vélo, ça prend du temps. L'autre moitié des enfants, qu'on va appeler le groupe placebo, on va leur faire aussi une petite intervention, mais qui ne va pas modifier leur interprétation des difficultés. Donc, ils devraient interpréter leurs difficultés comme ils le font d'habitude en classe. Et après ça, on va mesurer la performance des enfants à un exercice de compréhension de texte difficile. Alors, plus concrètement, ça se passait comme ça. Donc, les enfants font des exercices difficiles. Ce sont des anagrammes. Donc, vous avez des exemples. Par exemple, les enfants ont le mot camélia. Ils doivent changer les lettres pour trouver un autre mot. Et pour ça, ils ont une minute. Je ne vous laisse pas la minute, mais c'est vraiment difficile. La réponse est amicale. Pareil avec obtenir. La réponse, c'est robinet. Vous voyez, c'est vraiment des anagrammes qui sont très difficiles, surtout pour des enfants, surtout en temps limité. C'est fait exprès, c'est pour les confronter à la difficulté. Une fois que les enfants ont été confrontés à cette difficulté, donc à la moitié, on va leur expliquer que c'est normal. Il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. C'est juste parce qu'ils ne connaissent pas bien encore ces exercices. Ils ne savent pas encore très bien faire des anagrammes. Ils ont besoin de s'entraîner. Apprendre à faire des anagrammes, c'est comme le vélo, ça prend du temps. Donc on fait ça, c'est réparti en trois fois, trois exercices et trois fois l'intervention. Après, tous les enfants font la même tâche de compréhension de texte, qui est une tâche de compréhension de texte difficile. Je vous rappelle, c'est des élèves de 6e, mais on leur demande de faire un exercice qui est issu de l'évaluation nationale pour des élèves de 5e. Alors, le texte commence comme ça, c'est un texte qui est assez long, qui fait 39 lignes. Les premières, c'est ainsi. Soudain, le plus jeune des petits voyageurs, mu par on ne sait quel instinct, se retournant pour juger peut-être le chemin parcouru, s'exclama brusquement. « Tiens, le chien de Constant, de la Sauce. Tu crois, répliqua son frère, il me semble que le chien de la ferme de la Sauce n'est pas si gros que ça. Viens ici, berger, appela le cadet pour convaincre l'aîné de son erreur, etc. etc. » etc. Une des questions est par exemple, qui est berger ? Bon, c'est le chien. Mais quand vous aurez, enfin, si vous aviez eu à lire toute la suite du texte, peut-être ça aurait été un petit peu plus difficile. Donc vous voyez, c'est une tâche, un exercice qui est assez difficile. Donc on va regarder leur performance à cette tâche. Ce qu'on obtient, c'est que les enfants qui sont sur la première barre, là, je ne sais pas si vous voyez, ici, à qui on a expliqué que la difficulté, c'est normal, ça fait partie du processus d'apprentissage, les exercices scolaires, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Quand on a dit ça aux enfants, ils réussissent mieux la tâche difficile de compréhension de texte que les enfants qui ont aussi été confrontés aux difficultés, mais qui ont interprété leurs difficultés comme ils le font d'habitude en classe, sans qu'on ait orienté leur interprétation. Donc ces résultats ont été reproduits en fait dans trois études avec à chaque fois des enfants différents. Voyant ces résultats, on s'est demandé, bien, apparemment, cette intervention sur le vélo, ça a l'air d'aider les enfants à affronter la difficulté de la tâche ensuite. Mais après tout, est-ce qu'il ne serait pas plus simple de juste les mettre en situation de réussite ? Il est souvent recommandé aux enseignants, aux parents, de mettre les enfants en difficulté dans un cycle de réussite pour leur redonner confiance en eux-mêmes, pour les réconcilier avec les apprentissages scolaires, ce qui fait sens. Mais on s'est demandé, est-ce qu'il est plus bénéfique de rentrer dans un cycle de réussite, ou est-ce qu'il est plus bénéfique d'apprendre à gérer la situation de difficulté en se disant que c'est normal ? Pour tester cette hypothèse, cette idée, on a réalisé une étude avec cette fois-ci trois groupes. Donc les deux premiers, ce sont les mêmes, c'est-à-dire que tous les enfants font des exercices difficiles. À la moitié d'entre eux, on leur explique que c'est normal, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la tâche, que ça va venir, ils ont juste besoin de s'entraîner. Ensuite, aux autres enfants qui ont fait des exercices difficiles, on leur dit rien de spécial. On les laisse interpréter comme ils le font d'habitude. Et enfin, on a créé un troisième groupe où on fait faire aux enfants des anagrammes qui sont cette fois-ci très faciles, qu'ils arrivent à résoudre en temps limité, dans le temps qu'il leur est imparti. Donc, ils sont en situation de réussite. Et après, on va mesurer à nouveau leur performance sur la même tâche difficile. Donc, cette fois-ci, ça a été réalisé auprès de 132 élèves de 6e, toujours dans des collèges de Poitiers. Ce qu'on obtient, c'est que les enfants qui ont rencontré des difficultés, mais à qui on a expliqué que c'était normal, que ça ne voulait pas dire qu'ils étaient moins intelligents que les autres, réussissent mieux que les enfants qui ont rencontré des difficultés et qui les ont interprétées comme d'habitude, mais ils réussissent également mieux que les enfants qui ont d'abord fait des anagrammes faciles et qui étaient donc placés en situation de réussite. Ce qui nous permet de penser que plutôt que d'éviter les situations d'échec pour les enfants en difficulté, peut-être il vaut mieux leur apprendre à gérer cette difficulté en leur disant tout simplement que ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs aux autres, que ça ne veut pas dire qu'ils manquent d'intelligence. Ça veut juste dire qu'ils sont au début de leur apprentissage, comme la première fois qu'ils montent sur un vélo. Face à ces effets sur la performance, on s'est demandé comment ça marchait en fait. Comment ça se fait que ces enfants-là, ils réussissent mieux que les autres ? L'idée, c'est que quand les enfants pensent que leur difficulté indique un manque d'intelligence, eh bien, ça leur crée donc un sentiment d'infériorité, ça crée des doutes, des pensées négatives. Et je suis nulle, et de toute façon, moi je suis pas bon en français, et puis le français, du coup, j'aime pas ça, etc. Et toutes ces pensées sont là, présentes, et mobilisent une partie de l'attention des enfants, ce qui fait que du coup, ils ne peuvent pas consacrer toute leur attention à la tâche à réaliser, ce qui fait chuter leur performance. Du coup, si on espère qu'en expliquant aux enfants que la difficulté est normale, on devrait éviter qu'ils se disent que ça veut dire qu'ils sont moins intelligents. Du coup, éviter tout le questionnement de soi, je suis nul, etc. Et ainsi améliorer la performance. Alors, pour tester cette idée, on a réalisé une étude où nous avons toujours les deux groupes de base. Donc, tous les enfants font des exercices difficiles. Ensuite, à la moitié, on explique que la difficulté est normale. Les apprentissages scolaires, c'est comme le vélo, ça s'apprend. Et l'autre moitié interprète spontanément ces difficultés. Et après, par contre, on a réalisé ce qu'on appelle une mesure de l'attention disponible. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une tâche assez complexe où il faut faire plusieurs choses en même temps. Il faut écouter des phrases, dire si ces phrases ont un sens, en même temps qu'on se souvient de mots. Et donc, tout ça, ça demande beaucoup d'attention et ça permet de savoir combien d'attention est disponible chez les enfants. Ce qu'on obtient, c'est que les enfants à qui on a expliqué que la difficulté était normale au départ, eh bien, ils ont plus d'attention disponible que les enfants qui ont rencontré des difficultés et qui se sont sans doute dit que ça voulait dire qu'ils étaient inférieurs aux autres. Donc il semblerait bien que si les enfants apprennent à gérer la situation de difficulté en se disant juste que c'est normal, ça va passer, c'est temporaire, il faut juste s'entraîner un petit peu, eh bien, dans ces situations-là, donc en modifiant la situation d'évaluation, eh bien, on permet aux enfants d'avoir une attention qui est plus disponible pour les tâches à réaliser, plus disponible pour les apprentissages qu'on leur demande de faire. Et ainsi, on favorise leurs performances et leurs apprentissages. Alors, après tout ça, on s'est demandé si on pouvait encore plus mieux comprendre comment ça se passait dans la tête des enfants, pourquoi est-ce qu'on avait ces variations de performance quand on modifiait les situations d'évaluation. Et pour vous expliquer ça, je vais laisser la parole à ma collègue Alice Normand.
Bien, donc comme vous disiez ma collègue, nos travaux semblent donc suggérer qu'une situation d'échec altère l'attention des individus. On a beaucoup parlé d'élèves, mais on peut généraliser ça à tous les individus. Et donc reste à savoir maintenant quels sont exactement les mécanismes qui sont responsables de cette perturbation attentionnelle. Quels sont les processus cognitifs impliqués dans cette perturbation ? Alors, il y a de récentes études qui se sont intéressées au lien entre la comparaison sociale et l'attention. Pour vous imaginer ça, on va prendre le cas d'Arthur, qui a obtenu un 8 sur 20, alors que sa camarade Léa a, elle, obtenu un 15 sur 20. On sait que de manière spontanée, Arthur se compare à Léa. C'est comme ça chez tout le monde. Et donc Arthur va constater qu'il a moins bien réussi qu'elle. Cette situation de comparaison qui est donc défavorable à Arthur va engendrer chez lui donc des doutes, et des pensées négatives à propos de lui-même. Il peut notamment se dire qu'il est peut-être bien moins intelligent que Léa, ou encore qu'il est nul. Le problème, c'est que si Arthur ne veut pas être trop perturbé par ses pensées négatives pendant qu'il travaille, il va devoir essayer de les supprimer. Et nous savons qu'essayer de supprimer des pensées, c'est une activité cognitive qui est coûteuse en attention. Et la partie de l'attention d'Arthur qui sera alors consacrée à la tentative de suppression de ses pensées négatives, de ses pensées gênantes, eh bien cette partie-là de l'attention ne sera plus investie dans la tâche qu'il a réalisée, et c'est là qu'on voit apparaître la baisse de performance. Jusque-là, je ne vous dis rien de très nouveau. Maintenant, on va essayer de voir comment exactement l'attention d'Arthur peut être perturbée. Alors, tout d'abord, l'attention, elle peut être dirigée ailleurs que sur la tâche à réaliser. Auquel cas, on dira qu'Arthur est inattentif, il est distrait. Mais l'attention peut être aussi gérée de façon inappropriée. Ce qu'on appelle, en psychologie cognitive et de façon un peu réductrice, l'effet tunnel. Ce que vous voyez au bout de mon petit tunnel, c'est des équations, mais bon, c'est juste pour que vous le sachiez. Alors, qu'est-ce que c'est que cet effet tunnel ? Eh bien, cet effet tunnel, c'est en fait le fait que l'attention soit focalisée sur certains éléments de la tâche à réaliser, mais pas tous. Alors, quelles sont les conséquences de cet effet tunnel, de ce rétrécissement de l'attention ? Eh bien, lorsque la tâche est simple, cet effet tunnel va avoir un effet bénéfique. Pourquoi ? Mais parce que ça va permettre à l'individu de ne se concentrer que sur ce qui est important, et il va donc négliger ce qui n'est pas important et ce qu'il n'a pas à traiter. Par contre, si la tâche est complexe, l'effet tunnel risque d'avoir un effet néfaste sur la performance, sur le traitement de la tâche à réaliser, parce que l'individu va négliger certains éléments qui sont pourtant nécessaires à la bonne réalisation de la tâche. Alors, si un tel effet se produit dans des situations où l'individu est en échec ou bien dans des situations où l'élève va se comparer à un autre élève, ça peut être problématique parce qu'on sait qu'à l'école, les tâches sont souvent complexes. Alors, pour tester cette... on a donc posé l'hypothèse qu'un tel effet tunnel pouvait intervenir dans des situations de comparaison entre les individus ou dans des situations d'échec. Et donc, pour ça, nous avons donc mis en place une étude dans laquelle nous avons utilisé une tâche d'attention qui nous permet de mesurer comment les individus focalisent leur attention. Alors, ce type de tâche-là est, je le reconnais, bien éloigné de tâches scolaires, mais c'est en revanche avec ce type de tâche-là que l'on peut saisir les mécanismes cognitifs, là en l'occurrence des mécanismes attentionnels. Donc, je vais vous passer les détails de la tâche, mais je répondrai volontiers à des questions si vous souhaitez plus de détails, parce que ça peut être un petit peu long et technique et pas très passionnant. Concrètement, dans cette tâche-là, on voit d'abord un point de fixation qui centre en fait le regard, puisqu'on regarde ce point de fixation. Et ensuite, on voit apparaître très rapidement un petit point, qu'on appelle un point d'orientation, 30 millisecondes, il est à peine perceptible. Et ce petit point a pour propriété d'attirer automatiquement notre attention. Et après, on voit apparaître des lettres à l'écran. Et la consigne, c'est de dire le plus vite possible où est la lettre O. Dans le cas présenté ici, le petit point aura attiré notre attention au bon endroit, là où va apparaître la lettre O. Bref, on sait que lorsque l'attention est focalisée, le petit point est beaucoup moins vu par les individus. Auquel cas, qu'il soit au bon ou au mauvais endroit, ça ne va pas changer grand-chose à la vitesse avec laquelle on va dire que le haut est en haut et à gauche. Je passe vite là-dessus. Donc on a utilisé cette tâche-là dans une étude où on a mis des participants en situation de comparaison défavorable. En fait, on avait deux groupes. Donc la moitié des participants étaient mis dans le groupe comparaison défavorable et l'autre moitié des participants étaient dans un groupe où il n'y avait pas de comparaison. Alors plus précisément, pour ceux qui étaient en comparaison défavorable, lorsqu'ils arrivent au laboratoire pour passer l'expérience, on leur explique qu'un autre participant passe l'expérience en même temps qu'eux dans une autre salle, ce qui en fait est faux. On leur fait donc faire la première partie de la tâche que je vous ai présentée, et on s'arrête, on fait une petite pause, et à ce moment-là, ils reçoivent sur l'écran de l'ordinateur leur score à la première partie de la tâche, mais ils peuvent voir aussi le score du soi-disant participant présent dans la salle voisine. À chaque fois, la personne qui passe l'expérience voit qu'elle a un score de 65 sur 100 et pense que la personne présente à côté dans la salle a un score de 80 sur 100. Bien entendu, ce n'est pas le vrai score, il n'y a personne à côté, mais ça, le participant ne le sait pas à ce moment-là. Et évidemment, je lui dis à la fin. Donc, à partir de ce moment-là, le participant est mis dans une situation de comparaison qui lui est donc défavorable. Il est visiblement moins... J'ai cru que vous disiez que je parlais vite. Ah bon. Donc, dans cette situation-là, le participant pense donc qu'il est moins performant que quelqu'un d'autre. La pause est terminée, il reprend la tâche, il fait donc la deuxième partie de la tâche que je vous ai présentée, et c'est à ce moment-là que ça nous intéresse, puisque c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir mesurer si le participant a une attention qui est focalisée, un effet tunnel, ou pas. Pour l'autre groupe de participants, ceux qui ne sont pas en situation de comparaison, ils arrivent au laboratoire, ils font la tâche, ils ont une petite pause, ils refont la deuxième partie de la tâche, mais à aucun moment je leur dis qu'il y a quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit, et ils n'ont pas de score au moment de la pause. Donc, on va regarder les résultats. Donc, ces résultats ont été obtenus sur 82 étudiants, et ils confirment notre hypothèse, à savoir que les participants qui ont été placés dans une situation de comparaison défavorable, ici, c'est-à-dire ceux qui pensaient avoir obtenu un score inférieur au score d'un autre participant, eh bien, il présente un effet de focalisation de l'attention qui est significativement plus prononcé que les participants qui étaient dans la condition sans comparaison. Par contre, on s'est aussi intéressé à autre chose, on s'est intéressé à la manière de leur présenter la tâche. C'est-à-dire qu'on a essayé de savoir si nos participants ici, en situation de comparaison, allaient continuer à présenter cet effet tunnel malgré qu'on leur présente la tâche d'une manière différente. Et en fait, on s'aperçoit que on n'obtient plus notre effet tunnel si on explique aux participants dès le début de l'expérience que la tâche qu'ils font n'a rien à voir avec leur intelligence. C'est les barres bleues que vous voyez sur le graphique. C'est-à-dire qu'ici, ils ont bien obtenu un score inférieur à quelqu'un d'autre, sauf que dès le début de l'expérience, on leur a expliqué que cette tâche n'était pas du tout évaluative de leur capacité intellectuelle. Donc, il semblerait que de se comparer à quelqu'un de meilleur que nous a un effet sur la manière dont nous gérons notre attention, mais seulement lorsque l'on pense que nos capacités intellectuelles sont en jeu. On s'est donc demandé pourquoi. Bien, on sait qu'en fait, les individus ont tendance à considérer qu'une performance intellectuelle, c'est quelque chose qui est stable à travers le temps. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que, que ma performance intellectuelle... Si elle est mauvaise, il y a de fortes chances qu'elle reste mauvaise encore 10 ans après. Parce qu'il y a cette croyance, cette théorie naïve, selon laquelle l'intelligence, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment évoluer, qu'on ne peut pas vraiment changer. Et donc, ce serait parce qu'on a cette croyance-là, parce qu'on a peu de perspectives d'amélioration de notre performance, que cela générerait des doutes et des pensées négatives, que maintenant vous connaissez à bien connaître, hein, et qui donc... au final, entraînerait des difficultés de gestion de l'attention. Donc, en somme, si on fait un premier mini-bilan, les situations de classe, parce qu'elles impliquent des situations de comparaison entre les élèves, comme on l'a vu, par exemple, le simple fait de lever le doigt avant tout le monde, c'est déjà une situation de comparaison. Eh bien, ces situations de classe peuvent constituer un frein à l'apprentissage. Parce que les élèves ont tendance à croire que leur classement scolaire reflète leur valeur en tant qu'individu. Et en recevant de mauvaises notes, ou en constatant qu'on est plus lent que d'autres, par exemple, l'élève peut en inférer qu'il est moins intelligent que d'autres et qu'il ne peut malheureusement pas y faire grand-chose. Et donc, ce serait donc à la fois les situations de comparaison à l'intérieur de la classe, mais aussi l'intériorisation qui s'ensuit chez l'élève, qui mettent l'élève dans des conditions peu optimales dans sa réussite scolaire. En fin de compte, donc, nos recherches permettent de définir un petit peu mieux ce qu'est l'échec scolaire. Hein. on pouvait déjà imaginer que le milieu social et familial, ainsi que les facteurs internes du type motivation et capacité, jouaient un rôle dans la réussite de l'élève. Mais nous apportons la preuve expérimentale que la situation d'apprentissage en elle-même, à savoir la situation de classe, détermine aussi en partie la réussite de l'élève. Le problème, c'est que bien souvent, les difficultés que rencontrent les élèves sont plutôt interprétées comme une défaillance de facteurs internes. Il n'est pas très motivé et il a de faibles capacités. Alors qu'en fait, il pourrait ne s'agir que d'une situation d'apprentissage qui ne réunit pas les conditions optimales à une bonne performance. Et donc, en recherchant la cause des difficultés au niveau de l'élève, et seulement au niveau de l'élève, on fait ce que certains chercheurs ont appelé une erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire qu'on situe la cause de la difficulté au seul niveau de l'élève et on néglige l'influence de la situation, de l'environnement. Et donc, à partir de ce moment, un problème de situation d'apprentissage devient un problème d'élève. Et si on applique ça à des choses un peu plus générales comme apprendre le vélo, on pourrait dire que les élèves qui ont des difficultés à apprendre le vélo, ce sont des élèves dits cycliques. En ce sens, la croyance que les résultats scolaires trouvent avant tout leur explication dans les caractéristiques internes des individus, des élèves, la motivation, les capacités, eh bien, cela perturbe non seulement la performance des élèves, mais cela va aussi contribuer à masquer les inégalités sociales. Inégalités sociales qui deviennent alors des inégalités intellectuelles. On ne parle dès lors plus d'inégalités sociales, mais de classes hétérogènes. On s'est un petit peu penché sur cette question et donc on a récemment développé un nouveau programme de recherche qui vise à examiner dans quelle mesure le recours à l'idée d'intelligence peut venir masquer les inégalités sociales. Bien. Alors, dans ce nouveau programme de recherche, notre but, c'est d'essayer de... Je reviens en arrière. D'accord. La question, c'était dans quelle mesure le recours à l'idée d'intelligence peut venir masquer les inégalités sociales ? Donc, dans ce nouveau programme de recherche, notre but, c'est d'essayer de montrer qu'en règle générale, les individus sont contre l'injustice. On est tous contre l'injustice. Mais sauf quand les victimes de l'injustice sont des personnes considérées comme peu intelligentes. Alors, on a mis au point un paradigme expérimental assez complexe que je vais essayer de vous expliquer. Alors, imaginez que vous arrivez au laboratoire pour passer une expérience. Et là, je vous annonce qu'en fait, l'expérience prévue dure beaucoup moins longtemps que ce que je pensais et que donc, au lieu d'une expérience, je vais vous faire passer plutôt deux petites expériences. Et que ces deux petites expériences n'ont bien entendu rien à voir l'une avec l'autre. Donc, je vous fais rentrer dans une première salle et je vous fais faire une tâche pendant 5 minutes. Puis, je vous emmène dans une deuxième salle, cette fois-ci pour faire l'expérience qui était prévue, une expérience sur la mémoire. Et là, je vous explique qu'en fait, pour gagner du temps, je fais passer plusieurs personnes en même temps et que là, donc, vous allez être avec une autre personne en même temps dans cette salle pour faire l'expérience sur la mémoire. Il y a effectivement quelqu'un qui est là dans la pièce, sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne est complice avec moi. Je vous place sur la même table. Entre vous, il y a une séparation et donc je vous demande de ne pas parler pendant l'expérience pour pas que cela fausse les résultats. Je vous explique que vous allez devoir apprendre par cœur 8 paires de lettres chiffres. Par exemple, A2, N6, etc. Donc pour ça, je vous distribue un petit carnet dans lequel il y a 8 pages. Et sur chacune des pages, il y a écrit une lettre et un chiffre. Je vous explique que vous allez avoir 3 minutes pour apprendre par cœur ce petit carnet. Et après, je testerai votre mémorisation. Je vous laisse donc 3 minutes, seul, avec mon complice, je sors de la pièce, vous apprenez le petit carnet. Lorsque je reviens, je vous fais faire un petit entraînement au test de mémoire pour que vous compreniez le système du test. Je sors pendant que vous faites l'entraînement, je reviens, et cette fois-ci, je vous fais passer le vrai test de mémoire. Et je sors aussi pendant le vrai test. Bien. Le test se fait sur le même écran d'ordinateur pour vous et pour mon complice. Je vous ai expliqué quand même que ce n'est pas une compétition, mais qu'il faudrait quand même que vous ayez au moins 60% de bonnes réponses, parce que si ce n'est pas le cas, je ne vais pas pouvoir tester mon hypothèse. Et que si vous n'obtenez pas 60% de bonnes réponses, je vais devoir vous garder 15 minutes de plus pour vous réentraîner. J'explique tout ça à la fin aux gens. Hein. Donc, je vous laisse apprendre, je vous fais faire l'entraînement, je lance la vraie tâche, et au moment où vous faites le vrai test de mémoire, mon complice a été entraîné pour se comporter d'une certaine manière. En fait, il va vous demander de l'aide. Et s'il te plaît, c'est quoi qui va avec N déjà? Je ne m'en souviens pas. 8 fois. À chaque fois, le complice demande 8 fois de l'aide. Alors, ce qui nous intéresse vraiment dans cette expérience, c'est le nombre de fois où vous allez réellement aider le complice. Alors, dans une des conditions de l'expérience, nous créons une injustice. C'est-à-dire qu'au moment où vous êtes en train d'apprendre votre petit carnet, pendant les 3 minutes, mon complice se rend compte qu'il a un problème avec son carnet. En fait, il a la même lettre et le même chiffre sur chacune des pages du carnet. Donc, il vous le signale, vous n'avez pas de problème. Donc, finalement, il sort, il vient me chercher, il me dit « Excusez-moi, mais j'ai un problème avec mon carnet ». Je rentre, je constate effectivement qu'il y a un souci. Je lui donne un nouveau carnet qui, cette fois-ci, est valide. Je regarde mon chronomètre et je lui dis « Va falloir vous dépêcher un petit peu, il ne reste plus que 30 secondes. » Et donc là, il me dit tout naturellement « Mais je ne vais jamais avoir le temps d'apprendre mon carnet en 30 secondes. » Et moi, de lui répondre « Je suis désolée, j'ai un planning serré. Va falloir faire avec. » Et je sors. Donc là, clairement, il y a quand même une petite injustice. Donc, première question, qu'est-ce qui va se passer au moment où le complice va vous demander de l'aide, au moment du test de mémoire? Il y a de fortes chances pour que vous l'aidiez. Après tout, c'est quand même pas de sa faute. S'il n'a pas eu le temps, c'est de ma faute. Je lui ai donné mauvais carnet et puis j'ai été injuste en ne lui donnant pas plus de temps pour apprendre. Mais maintenant, une deuxième question. Est-ce que vous allez l'aider de la même manière si vous savez qu'il est moins intelligent que vous? Alors, pour tester cette hypothèse, je vous ai en fait fait faire un test d'intelligence dans la première salle où vous êtes allé. Et au moment de la pause, entre l'entraînement et le test de mémoire, je reviens innocemment avec 2 feuilles de réponse, votre feuille de réponse au test d'intelligence et la feuille de réponse du complice. Je vous explique que les feuilles ont été corrigées par ma collègue, celle qui s'occupe de cette première expérience que vous avez passée dans la première salle, mais que malheureusement j'ai oublié de vous faire noter votre date de naissance. Je vous redonne donc les feuilles corrigées pour que vous notiez votre date de naissance et je fais exprès de les intervertir. Vous vous retrouvez donc entre vos mains le score d'intelligence de mon complice. Le complice se rend compte que j'ai fait une erreur, j'ai interverti les feuilles, donc il me le signale, je remets les feuilles dans le bon ordre, et cette fois-ci, vous voyez votre propre score d'intelligence, qui est bien entendu pas vrai, c'est juste pour les besoins de l'expérience. Alors en fait, dans tous les cas, vous voyez que vous avez un score de 105. Dans certaines conditions, vous aurez vu que le complice avait un score de 98, soit un moins bon score d'intelligence que vous, et dans un autre cas, vous aurez vu qu'il avait un score de 112, soit un meilleur score que vous. Et maintenant, on va regarder quel effet ça peut avoir sur votre réponse à l'aide que le complice va vous demander au moment du test de mémoire. Alors, ce graphique, il représente le nombre de fois où vous aurez aidé le complice lorsqu'il vous l'aura demandé. Alors, dans la condition contrôle, c'est-à-dire quand le complice n'a pas eu de problème avec son carnet, il n'a pas subi d'injustice, eh bien, on voit que les participants l'aident en moyenne un peu plus de 4,5 fois sur 8. Par contre, dès que le complice a subi une injustice, donc dès qu'il a eu un souci en fait, avec son carnet pendant l'expérience et qu'il n'a pas eu le temps nécessaire pour mémoriser, les participants l'aident à hauteur de 7 fois sur 8. Parce que là, tout va bien. En revanche, s'ils ont vu le score au test d'intelligence et qu'ils ont vu que le score de mon complice était de 98, alors que le leur était de 105, Ils ne vont plus l'aider que 3,5 fois sur 8. Quand bien même le complice n'a pas eu le temps d'apprendre son carnet. Et enfin, si le participant a vu que le score du complice était de 112, donc supérieur au sien, les participants vont l'aider autant que lorsqu'ils ne connaissent pas son niveau intellectuel. Pour résumer donc, le complice a eu un problème d'apprentissage qui ne dépendait pas de lui, mais qui dépendait de l'expérimentatrice, qui s'est trompée en lui donnant un mauvais carnet et en lui refusant injustement plus de temps pour apprendre. Les individus veulent donc, en règle générale, rétablir un peu de justice, et donc au moment où le complice demande de l'aide, eh bien on l'aide, tout simplement, sauf s'il est moins intelligent que nous. Donc tout se passe comme si le complice méritait l'injustice qu'il a subie à partir du moment où il n'est pas très intelligent. C'est ce qu'on a manipulé. Donc, comme ce qu'on a manipulé marche, on dit que ce qu'on a manipulé, c'est l'explication. Je te laisse terminer.
Donc juste pour terminer, puisque donc cet ensemble de recherches nous permet de conclure sur trois choses, en fait. La première chose, c'est que cette croyance méritocratique est largement partagée, qui est qu'en fait, à l'école, on réussit en fonction de ses capacités, de sa motivation. Donc cette croyance dans l'efficacité de la méritocratie, elle est problématique. Alors j'ai mis erroné, parce qu'en fait, on a un nombre très très important de recherches, alors qu'on a produit dans notre laboratoire, mais pas seulement dans notre laboratoire. Par exemple, là on a Dominique Muller et Marie-Pierre, je suis désolé, le nom je le mange tout le temps, Fayant. Qui viennent d'un laboratoire de Grenoble, qui eux-mêmes ont produit de nombreuses fois en fait, des phénomènes similaires sur les effets de l'attention, des effets des situations pardon, sur les performances ou sur l'attention. Donc on est en mesure aujourd'hui de dire, sans mentir, et je crois qu'on a suffisamment de données, de recherches expérimentales qui permettent de dire que cette croyance-là, en tout cas, elle ne permet pas d'expliquer toutes les différences de performance que l'on observe. La deuxième chose, c'est qu'on a également suffisamment de résultats expérimentaux pour dire que l'existence de cette croyance constitue, dans certaines situations en tout cas, un frein aux apprentissages et à la performance. Et enfin, et là bon, c'est le dernier programme de recherche sur lequel que nous avons lancé, il semblerait, donc si l'on s'en tient aux résultats qu'on vient juste de vous présenter, que ce discours sur l'intelligence contribue à masquer, à occulter des inégalités sociales et des injustices qui sont parfois tout à fait explicites. Donc, bien entendu, quand on évoque l'ensemble de ces travaux-là, on n'a pas la prétention, et j'espère que ce n'est pas l'impression qu'on vous a donnée, d'avoir la réponse aux problèmes compliqués qu'on soulève à travers ces travaux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire pour finir, c'est que et on n'a pas eu trop eu le temps, donc on n'a pas donné tous les détails bien sûr des conditions dans lesquelles sont réalisées ces expériences, notamment les expériences qu'on a réalisées auprès des enfants. Il est clair que tous les enfants qui participent à ces expériences font l'objet à l'issue de l'expérience d'un entretien au cours duquel en fait on leur explique quels étaient les objectifs de l'expérience et on leur vend notre métaphore du vélo, pour qu'en fait ils puissent tous bénéficier, puisqu'on a montré que ça avait des effets bénéfiques de cette intervention. Voilà, donc c'est en tout cas dans les grandes lignes ce qu'on tenait à vous dire. Maintenant, j'espère que vous avez des questions ou des réactions et qu'on va pouvoir discuter de ces travaux.
Donc merci à tous les trois pour cette présentation. Vous êtes un peu vicieux là pour les mises en place des expérimentations. Non, bon, il faut vraiment les trouver déjà les expérimentations. Donc vous êtes assez nombreux, donc je pense qu'il y a pas mal de questions, j'espère tout au moins. Donc voilà, des compléments d'information, une première question. Je vous demanderai d'utiliser effectivement le micro parce qu'on enregistre la conférence.
Petite question sur le contexte des expériences. y a-t-il un contrôle sur le niveau de la situation socio-économique des enfants de chacun des groupes pour voir qu'ils sont similaires ou à tout le moins pas trop dissimilaires?
C'est sur les études que j'ai présentées, j'imagine.
Oui.
Oui, donc c'est effectivement indépendamment du niveau socio-économique des enfants, donc indépendamment de leur classe sociale. C'est aussi indépendamment de leur niveau initial scolaire. C'est-à-dire que ces effets de mon intervention, de mon histoire de vélo, ça marche chez tout le monde. Chez les bons, chez les mauvais, chez les pauvres, chez les riches, chez tout le monde. Voilà.
Donc, la représentation de chacun des groupes dans la société dans les échantillons se ressemblent.
Oui, alors c'est parce que c'est aléatorisé, on les prend au hasard, les enfants. Donc quand je fais mes deux groupes, là, mon groupe avec l'intervention sur le vélo et mon groupe placebo, je les prends au hasard dans la classe, donc on suppose que le hasard fait bien les choses, hein, il y en a 50%. Mais en plus, effectivement, j'ai quand même vérifié, c'est-à-dire statistiquement, on a une des méthodes pour vérifier que ça ne joue pas. On ne sait jamais si le hasard avait mal fait les choses. Mais quand on contrôle statistiquement cet effet-là, ça marche quand même, en fait. Donc c'est indépendant.
Bonsoir, merci pour cette intervention. J'aimerais juste savoir ce que c'est être dyscyclique.
Alors la dyscyclie, vous avez bien compris que c'était un petit pied de nez. En fait, comme vous le savez, il y a énormément de recherches réalisées tout azimut sur la question de l'échec scolaire et de la difficulté scolaire. Et on a vu en fait fleurir au cours des 10 dernières années en fait de nombreux travaux qui reprennent des idées plus anciennes et qui consistent en fait à situer donc l'origine des difficultés scolaires et bien au niveau des élèves et donc qui vont traduire ces difficultés par des 10. Alors ces 10, elles sont basées sur des recherches tout à fait... sur des recherches tout à fait sérieuses, respectables et à respecter. Mais elles contribuent en fait à asseoir cette idéologie, cette croyance qui nous semble être problématique. Donc on a vu apparaître... on savait qu'il y avait déjà des 10 lexies. Alors, vous savez, il y a un nombre incalculable de dyslexie. C'est incroyable le nombre d'enfants qui souffrent de dyslexie. Or, il s'avère que les spécialistes de la dyslexie considèrent qu'il y en a beaucoup moins. Donc, les dyslexies, ce n'était pas suffisant. On a des dyscalculies, des dysorthographies, des dysphasies, des dyspraxies. Donc, on s'était dit... si le vélo était réellement appelé... Si l'enseignement du vélo... était réellement cantonné en fait à la salle de classe. On peut imaginer, enfin je pense que ce serait pas complètement farfelu comme hypothèse, qu'il y ait des enfants qui traînent pendant de longues années de sérieuses difficultés d'apprentissage du vélo. Et moi je suis prêt à mettre ma main au feu. Bon, je l'ai mise de nombreuses fois au feu cette main, hein, mais je suis prêt à mettre ma main au feu que il y aurait des gens aujourd'hui qui auraient proposé le vocable de dyslexie de dyscyclie, pardon, pour caractériser la souffrance de ces élèves.
À propos des performances, là, je voudrais savoir, parce qu'on dit que les filles travaillent mieux que les garçons, ont des meilleurs résultats, et puis c'est pas... Après ça se tosse, là. Alors, comment vous expliquez
Alors, en fait, c'est pas faux. Hein. Statistiquement, il y a tout un tas d'études réalisées en France, mais aussi réalisées dans d'autres pays, qui montrent, y compris dans les disciplines qui ne sont pas a priori des disciplines féminines, que les filles tirent assez bien leur épingle du jeu. Alors, tout ça marche assez bien jusqu'à un certain âge. notamment autour de la période de l'adolescence. Vous savez que à la période de l'adolescence se joue un certain nombre de choses, notamment en termes de construction identitaire. Et c'est à cette époque que les stéréotypes de genre, les rôles sociaux, vont jouer un rôle important dans la structuration de l'identité. Donc il devient plus difficile pour les filles, j'essaie d'être prudent, de se projeter dans des filières qui sont des filières stéréotypiquement masculines, non pas parce qu'elles sont moins compétentes, mais simplement parce que ces disciplines-là ne sont pas conformes en fait, à l'identité qu'elles sont en train de développer.
Comment on explique à l'école, par exemple, chez les petits-enfants, la différence entre les filles et les garçons de résultats, de notes, en notes, par exemple. Je ne sais pas chez les adultes, mais chez les enfants.
Parce qu'il y a un rapport au corps qui est un petit peu différent, c'est que les filles, aussi, en fait, elles sont plus, entre guillemets, sont des élèves plus dociles, et donc elles ont déjà une adaptation en fait, à l'école qui est facilitée parce que elles sont moins que les garçons confrontés à ces problèmes de contrôle du corps dans l'espace. Alors c'est une des explications, mais il y en a d'autres. Je l'ai pas évoqué, mais des études qui montrent que les filles très tôt sont sensibles à ces effets de réputation des filles, et notamment les effets que je vous ai présentés tout au début sur la sensibilité de la performance en fonction de l'origine sociale, c'est des effets qu'on a reproduits aussi un grand nombre de fois avec des filles. Si on dit à des filles, par exemple, qu'on va évaluer leur capacité en logique ou en mathématiques ou dans les sciences, dans les matières scientifiques, on va avoir tendance à retrouver ces mêmes patterns. C'est-à-dire que les filles vont commencer à douter de leur capacité parce qu'elles sont des filles, et donc vont avoir leur niveau de performance qui tend à baisser. Alors bien sûr, quand je dis ça, c'est toutes choses étant égales par ailleurs, dans des situations contrôlées de laboratoire.
Donc le résultat de vos études montre que les pensées négatives que certains enfants peuvent avoir les empêchent de développer leur capacité. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment éviter ces pensées négatives, et est-ce que vous pensez que c'est possible? Parce que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu familial ou dans le milieu... l'enfant n'est pas toujours... on ne l'aide pas à développer des pensées positives. Alors une fois qu'on a fait cette étude, qu'est-ce qu'on fait? On change le mode d'éducation, on change le milieu scolaire, parce que visiblement on fait beaucoup de dégâts. Enfin, je dis on parce que je suis enseignante. Voilà. C'est-à-dire que c'est une étude intéressante, mais après, qu'est-ce qu'on fait?
Bien sûr, je n'ai pas la réponse à cette question.
Oui, j'imagine.
Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, on est capable de mettre en place un dispositif qui, temporairement, dans une situation bien particulière, semble atténuer les choses. Ouais. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible d'essayer de développer ces interventions, par exemple, et de voir dans quelle mesure, en fait, on peut les appliquer dans une situation de classe, par exemple, sur une année complète. Mais ça, c'est des choses qu'on n'a pas faites. Parce que s'il y a des enseignants dans la salle et qui sont prêts à vouloir se lancer dans ce genre de choses, on serait tout à fait joyeux de contribuer à ce genre de choses. Mais ça, c'est du développement. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la phase de recherche, quoi. Donc ça serait tout à fait risqué de ma part, et c'est pour ça que je me garde bien de le faire, de dire, vous n'avez qu'à faire ça, il suffit de faire ça, yaka, des yaka, je pense que les enseignants ont entendu un paquet, et notre rôle, c'est pas d'en rajouter une petite couche.
Enfin, quelque part, votre objectif, c'est quand même de faire changer les attitudes. Quand vous faites une recherche comme ça, c'est pour pointer des comportements qui
absolument impliquent. Quand on fait ces recherches-là, c'est qu'on veut questionner un certain nombre de choses et qu'on espère que ça peut déboucher sur un petit quelque chose.
Et au niveau des instances, est-ce que vous êtes entendu? Est-ce qu'on vous écoute? Est-ce que... Voilà.
Malheureusement, on n'en est pas...
On n'en est pas là encore.
On n'en est pas encore là, non. Et, pardon, je garde la parole. Il y a des choses qu'on sait qu'en fait, on pourrait interdire, par exemple. Moi, je peux donner une liste de choses qu'en fait, on devrait interdire dans les salles de classe. Par exemple, il faudrait interdire le rendu des copies devant la classe à voix, enfin, à voix haute. Ça, il y a peut-être des enseignants qui trouvent un malin plaisir à faire ça, mais on sait que, alors là, ça a des effets, mais catastrophiques. On sait également que les situations de comparaison en fait, ne facilitent pas les apprentissages. Donc on devrait interdire le rendre les copies à voix haute avec des commentaires dans l'ordre croissant ou décroissant, de manière aléatoire, etc. Tout ce qui va renforcer ces classements, c'est-à-dire que les classements d'élèves deviennent des classements problématiques. Donc le fait, par exemple, de mettre sur le tableau le classement des élèves du premier à la dernière, le fait de dire aux élèves des choses comme « Oui, mais toi, en fait, en français, tu vaux quoi ?» Le fait de dire ce genre de choses, en fait, c'est-à-dire à essentialiser la difficulté au niveau de l'élève en rejetant toute la responsabilité sur l'élève avec une violence verbale qui est pas souhaitée, en fait. Les enseignants ne cherchent pas du tout à faire ça volontairement, mais certains, en tout cas, peuvent être amenés à le faire. Je crois qu'on devrait sensibiliser les enseignants sur ce type de dynamique et puis dresser une liste de pratiques qu'on devrait absolument proscrire. Voilà.
Oui, j'avais juste une petite question en complément de l'intervention précédente. Je serais assez curieuse de connaître des résultats de recherche du même type que vous avez mené avec les jeunes enfants dans le cadre de situations de classe où l'enseignant essayait de favoriser un maximum la coopération, le travail de groupe. Et je me demandais, enfin c'est une hypothèse, mais je pense que ça neutraliserait peut-être un petit peu d'une certaine manière ces effets négatifs quand les enfants sont confrontés sans cesse à des situations entre guillemets de concurrence.
Vous avez raison, c'est-à-dire que le travail de groupe en fait peut favoriser des dynamiques qui va minimiser ces effets de comparaison sociale, mais le travail de groupe n'est pas en soi quelque chose qui va soit favoriser ou empêcher l'expression de ces dynamiques. C'est-à-dire que des travaux de groupe aménagés en fait, vont effectivement être tout à fait s'inscrire dans cette logique de désessentialisation. C'est pas très joli, mais en fait, où on va véhiculer à l'élève le fait que il est en phase d'apprentissage et que donc il y a des collègues en fait qui font des recherches explicitement sur cette question qui montrent que en fait la coopération et en fait la coopération quand elle est faite de manière constructive ou lorsque les élèves viennent par exemple avec des points de vue différents qu'ils doivent ensemble élaborer des connaissances a vraiment des effets très très bénéfiques sur l'apprentissage. Donc il y a plein de pratiques dans les salles de classe qui en fait sont déjà des applications de ces idées-là. Hein, je crois que, en fait, on n'a rien inventé là.
C'est ça qui me choque un peu, moi. Parce que là, vous prenez un cas. Oui, on va vous comparer donc avec le vélo. Bon, tout le monde sait que on arrivera tous à faire du vélo. Alors déjà, ça montre qu'on va être tous égaux. Et donc, c'est essayer de montrer que tout le monde est aussi intelligent les uns que les autres. Mais c'est nier vraiment la différence de tout. Et je trouve, par exemple, que l'estime de soi, vous dites que, justement, l'estime de soi, les pensées négatives, mais ça ne devrait pas être qu'à l'école. Parce qu'au contraire, moi, je pense qu'il faudrait valoriser et différencier, par exemple, l'intelligence. Excusez-moi, mais on n'est pas tous aussi intelligents les uns que les autres. On ne fera pas tous Polytechnique, par exemple. On fera tous du vélo, mais on ne fera pas tous Polytechnique, quel que soit l'effort qu'on y mette. Donc, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que ne pas faire intégrer à l'enfant que l'estime de soi, par exemple, à la maison, par exemple, qu'un parent ne devrait pas regarder son enfant comme un élève, mais comme un enfant, avec toute sa valeur, il peut être donc pas bon à l'école. Mais pourquoi vouloir absolument qu'il soit comme les autres à l'école et ceci et cela? On arrive toujours à essayer de normaliser. On n'arrivera jamais à normaliser. Donc on voit bien quand même ce que ça veut dire, quand même normaliser où on en est maintenant. Je ne crois pas qu'on soit mieux qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je pense qu'on était plus égaux, on avait plus de chance les uns avec les autres que maintenant. Alors là, excusez-moi, mais là, je pense que là, maintenant, en ce moment, et en plus, je trouve que quand vous dites le milieu social, dans ce cas-là, ça veut dire que tous ceux d'une même famille devraient réussir pareillement. Or non, dans une famille, il y a des bons et des moins bons. Mais les clés, mais c'est aussi à faire intégrer que le but, c'est pas uniquement de réussir à l'école comme moyen de réussite. Et moi, je pensais que réussite est la... Exactement. Et justement. Ah ben bah pas du tout, parce que moi, mes parents, si vous voulez, m'avaient déjà montré que ma richesse et mon estime de moi ne dépendaient pas de mes résultats à l'école, uniquement. Donc quand je me suis retrouvée en prépa, eh ben moi, j'ai vu des gens très intelligents. Et donc, je me suis dit... Pardon ? J'ai pas vécu l'échec... Mais bien sûr que si, j'ai eu l'échec scolaire, parce que je n'ai pas pu passer. Mais l'échec, il peut être n'importe où. Mais il est pareil. Si vous dites à un enfant déjà au CE1, t'es le dernier de ta classe parce que ceci. Mais non, il peut être très bon en sport, il peut être très bon en ça. Et quand vous dites que par exemple un groupe, mais même un groupe, un micro-groupe en moyenne, j'ai des enfants moi de 20 ans à 7 ans, il y aura toujours un leader. Il y en aura toujours un. Les TPE, ça se voit tout de suite. Hein. Même en TPE en première, on pourrait croire qu'ils ont tous analysé, qu'ils vont apporter le même truc. Mais non! Il y en aura toujours un qui va apporter son intelligence et l'autre qui va suivre comme un mouton. Donc, moi, j'arrive pas à comprendre. Alors, c'est pour ça que je trouve pas que votre méthode soit validante, si vous voulez. J'arrive pas à trouver la... Vous voulez montrer quoi exactement? Si c'est pour montrer que... Alors, moi, je suis au contraire d'accord pour la spirale de la réussite. Je pense que ça... Mais au contraire. Mais d'un côté, accepter l'échec, s'en servir et savoir rebondir, mais c'est vraiment ça, par contre, à donner, plutôt que de dire... Tu sais, tu es aussi intelligent que celui-là parce qu'un jour, tu y arriveras. Et en plus, je n'ai entendu ni notion de travail, ni notion d'effort.
Si, en fait...
Alors là...
Ouais, attendez, si vous me laissez répondre, travail, je vais effort. Pouvoir, en fait, pouvoir voilà, dire là, quelque chose. Sinon, je vous laisse parler et puis vous faites la réponse en même temps. Mais, je crois qu'il y a un peu d'incompréhension, donc je vais essayer de reprendre. Je vais faire une version courte, mais on n'a jamais dit un seul instant... Ou alors, faut nous le dire, il y a un enregistrement, donc on pourra le réécouter sur le site de l'Espace Mendès France et chacun pourra aller voir par lui-même. Mais je pense qu'on n'a jamais dit à aucun moment qu'en fait, ce qu'on voulait ou ce qu'on pensait, c'était que tout le monde était intelligent de la même manière ou qu'on était tous égaux de l'intelligence.
Si, tout le monde peut réussir.
Non, attention, nous, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'en fait, tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut apprendre. Donc on prend les...
Ça dépend jusqu'où ?
Mais attendez.
Oh, ben non.
Attendez, tout le monde peut apprendre. Tout le monde peut...
Un pauvre enfant à la classe, qu'est-ce qu'on va lui dire ?
Attendez, mais laissez-moi finir. Tout le monde peut apprendre. Qu'est-ce qu'on demande à ces enfants d'apprendre ? On leur apprend ici à faire un certain nombre de tâches. Moi, on n'a jamais dit un seul instant qu'il n'y avait pas de différence entre les gens. Je n'ai pas dit un seul instant qu'en fait, il n'y avait pas des gens qui savaient... qui avaient des scores à des tests de QI qui étaient de 160 et qu'il y a d'autres personnes qui ont des scores à des tests de QI de 70. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de différence entre les individus. Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, à force d'être obsédé par la réussite, on en oublie un principe qui est essentiel, c'est que la réussite implique d'abord un apprentissage. Et cet apprentissage, en fait, nécessite une confrontation à des erreurs, nécessite, en fait, un échec. Et le problème de notre enseignement scolaire élitiste républicain, c'est de faire croire, en fait, aux individus que le niveau de réussite est, en fait, un indicateur de l'intelligence, à savoir donc, que les gens qui se retrouvent dans certaines filières sont des gens qui ont une intelligence supérieure et qui va donc expliquer et justifier le fait qu'ils vont bénéficier engranger un certain nombre de privilèges sur la base de ses performances. Ce qu'on est en train de dire, c'est que cette idéologie-là, c'est une idéologie. Ce n'est pas un fait scientifique, ce n'est pas en fait quelque chose qui est établi, c'est en fait une option idéologique. Donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est qu'en fait, cette option idéologique, dans une salle des classes, a des effets délétères sur l'apprentissage de notions de base. Alors, le vélo... Ça peut être la résolution des équations du second degré, ça peut être l'apprentissage de l'accord du participe passé, etc. Toutes ces choses-là sont des apprentissages qui sont compliqués. Et aujourd'hui, dans notre système scolaire, il y a des élèves qui ont beaucoup de difficultés en fait, à maîtriser ces apprentissages. Je ne pense pas un seul instant qu'ils ne sont pas capables de maîtriser la résolution des équations du second degré. De la même manière, j'enseigne à l'université. Il se trouve que j'enseigne aussi, par exemple, les statistiques et que je suis confronté, pas dans mon quotidien, mais assez régulièrement, à des étudiants qui débarquent et qui me disent « Les statistiques, les modèles linéaires, c'est des choses que je ne comprends pas. C'est des choses, en fait, moi, je n'ai pas la bosse des maths, je n'ai pas du tout cet esprit-là. Et en fait, ils ont complètement intériorisé ce qu'une partie de la société veut qu'ils aient intériorisé, c'est l'idée qu'il leur en manque un petit bout. Et en fait, tout le travail consiste à leur montrer que ne pas comprendre, ne pas savoir faire, c'est l'étape numéro une, non pas de la réussite, mais de l'apprentissage. Moi, je ne suis pas du tout obsédé par la réussite. On ne considère pas du tout que ce qui est important, c'est la réussite. Ce qu'on considère, c'est qu'en fait, si on ne donne pas un espace aux enfants et aux individus, aux gens en formation, eh bien, pour se former, pour apprendre, c'est un problème social. Après, la question de la réussite, c'est presque un autre débat. Donc, si on a donné l'impression qu'on disait que tout le monde était intelligent pareil et qu'il n'y a pas de différence entre les individus, eh bien, on a été mal compris. En tout cas, ce n'est pas du tout... Oui, c'est les préjugés de la réussite et de l'échec scolaire. Donc, on parle bien, en fait, de préjugés. Donc, il existe des préjugés dans les salles de classe. Et ces préjugés-là, c'est des préjugés qui amènent un certain groupe d'enfants. Et on voit très bien ces exemples-là. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, les enfants qui réussissent très bien en primaire, les bons. Eh bien, ces bons, en fait, souvent, ils vont faire classe européenne. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils font classe européenne, des enfants qui étaient bons au départ vont se mettre à fonctionner exactement comme des mauvais. Entre le moment où ils rentrent en classe européenne et le moment où ils sont sortis du cours moyen, il ne s'est pas passé beaucoup de choses, en fait. Hein. La seule chose qui a changé, c'est que le contexte de comparaison est différent. Alors qu'ils pouvaient être les meilleurs dans leur salle de classe, en primaire, ils risquent de se retrouver dans une position en fait, de comparaison défavorable. Et ça peut déclencher tous les mécanismes en fait, que l'on a ici. Et ces effets-là, on les trouve dans les classes les plus avancées. J'ai un collègue qui travaille à Marseille, il s'intéresse beaucoup en fait, aux effets de stéréotypes de genre, par exemple. Il a travaillé dans des écoles d'ingénieurs, et il a mis en évidence exactement ces dynamiques. Pourtant, ce sont des gens qui ont été triés avec un tamis qui était très très fin, et qui vont fonctionner exactement de la même manière. Pourquoi ? Parce que les effets dont on parle ici, ce n'est pas des effets de personne, ce n'est pas de dire il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui sont des leaders, et puis il y a des autres, c'est des bonnets, des suiveurs, etc. Ce n'est pas du tout ça. Ce qu'on met en évidence, c'est qu'en fait, les situations d'apprentissage en elles-mêmes sont imprégnées d'une idéologie, et cette idéologie, en fait, est problématique. Alors, on peut être pour ou contre, on peut dire que, en fait, tout ça, on le savait déjà, etc. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de montrer que on peut scientifiquement étudier ces problèmes, on peut expérimentalement les mettre en évidence, étudier les processus. Voilà. Après, on peut débattre de position pour ou contre, mais en tout cas, nous, on ne défend pas du tout l'idée que tout le monde a la même intelligence. D'ailleurs, en fait, on pourrait s'engager dans un très long débat, et vous savez peut-être que c'est un débat très, très vif en psychologie, pour savoir qu'est-ce que c'est que l'intelligence, comment ça se mesure, et que les auteurs sont très très loin d'être d'accord entre eux, même d'accord à très très peu. C'est quelque chose de très 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 débattu, et donc je serais bien en difficulté si on me demandait de définir aujourd'hui ce que c'est que ce qu'on appelle l'intelligence. Voilà.
Bonsoir. Après avoir exposé les statistiques qui indiquent que les élèves qui sont issus de classes sociales inférieures sont plus en situation d'échec scolaire. Vous avez montré que l'échec scolaire peut provenir d'une suspicion d'infériorité. Donc cela voudrait dire que les enfants de classe sociale inférieure ont des suspicions d'infériorité. Et pourquoi en ont-ils dès le départ ?
Alors, c'est pour moi ou... en fait, c'est une bonne question, ça fait déjà gagner 2 secondes. C'est une bonne question. En fait, il y a des auteurs qui soutiennent l'idée que en fait, les savoirs scolaires sont des savoirs qui sont définis, mais qui ont été retenus comme étant les savoirs scolaires, mais qui ne sont pas en fait des savoirs neutres. Il y a un arbitraire culturel, en fait, pour dire les choses un petit peu en employant des grands mots, mais disons que les savoirs scolaires, ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est en fait des savoirs qui ont été choisis. D'accord ? Donc quand on est issu d'un milieu défavorisé, lire des livres, je caricature un petit peu, mais lire des livres, être exposé en fait à de l'art, le fait d'avoir dans sa famille des gens qui font des professions où il y a un contact avec l'écrit qui est vraiment très important, ben, c'est des choses qu'ils ne connaissent pas. Donc ils arrivent dans un environnement où ils ont tout à apprendre. D'accord ? Quand ils arrivent dans cet environnement, ils se retrouvent en comparaison, j'ai pas dit compétition, en comparaison avec des élèves qui ont été mieux préparés par leur milieu d'origine. Parce que leur milieu d'origine, ces élèves-là, eh bien, est plus proche de la culture scolaire. Donc, ils vont tout de suite faire les frais, en termes de performance, de l'effet du milieu. Cette différence-là n'a rien à voir avec leur intelligence, entre guillemets. Elle traduit simplement le fait qu'ils n'ont pas été préparés de la même manière pour, en fait, s'adonner à un certain nombre d'exercices. Donc, le problème, c'est que cette idéologie dont on a parlé, elle va avoir tendance à nous amener à penser, enseignants, parents, mais aussi élèves, que ces écarts de performance se situent au niveau des élèves. Donc, les élèves vont incriminer entre eux eh bien, un manque d'intelligence ou, en fait, une infériorité. Tout ça, bien sûr, c'est des mots à prendre avec un petit peu de précaution. Mais donc, l'enfant va être suspecté d'infériorité. C'est à ça dont on parle. Donc les enfants issus de milieux défavorisés, quand je dis ça, c'est des effets généraux. Il y a plein d'enfants. Il y a quelques enfants issus de milieux défavorisés qui réussissent très bien en système scolaire. Mais ce sont des exceptions. Enfin, toutes les données qui sont produites montrent que ça existe, mais qu'ils sont peu nombreux. Et quand on regarde la population des classes préparatoires, la population des grandes écoles, comment ?
De moins en moins nombreux, c'est ce que je vous dis. On a perdu en égalité de moins en moins. Parce que maintenant, l'argent est de plus en plus. Les cours particuliers, tout ça. Il y a 20 ans, il n'y avait pas ça.
Mais bien sûr que si, madame. Mais bien sûr que si. Il y a toujours eu des gens qui ont de l'argent et qui se sont payés des cours particuliers.
Avant, il y avait à peu près 10% d'ouvriers. Maintenant, c'est passé de 3 à 5. Je peux vous dire qu'il y a
aussi beaucoup moins d'ouvriers. Pourcentage ouvrier à la population.
Écoutez, avant, on faisait des études supérieures sans qu'il y ait des classes prépa le soir payantes à 2000 euros par mois, que Acadou, bien sûr, maintenant côté en bourse, qu'il y a des systèmes parallèles pour coacher les enfants. Avant, il n'y avait pas ça.
Oui, mais parce que.
C'était à l'école de la République et je suis sûre qu'il y avait des pauvres à côté de moi.
Bien, mais tant mieux.
Maintenant, dans certains milieux, il n'y a plus de riches.
Mais oui, mais parce qu'en fait. Parce que l'éducation est devenue et devient de plus en plus en fait un enjeu très très important. Et quand on a des ressources, eh bien on mise, comme on me faisait un peu avant, toutes les chances de son côté. Donc les gens qui ont les moyens payent des cours particuliers à leurs enfants, les inscrivent dans des écoles.
Moi, je suis maître de conf en sociologie et en sociologie de l'éducation. Donc, je laisse un peu le débat. Et c'est que je n'ai pas les mêmes méthodes de recherche, mais je m'intéresse aux mêmes questions. Et du coup, j'ai des questions sur votre protocole de recherche et notamment sur si on part du principe que les apprentissages, c'est difficile, c'est long. Comment une situation d'expérimentation durant laquelle on dit « Bon alors, c'est normal, tu es en difficulté, mais c'est pas grave, c'est le processus d'apprentissage. Tout de suite après, on se rend compte qu'ils réussissent mieux que d'autres à qui on l'a pas dit. Et je me dis comment une intervention lors d'une expérimentation peut aller contre des apprentissages sur l'image de soi, sur l'intériorisation des stéréotypes, etc., qui sont faits tout au long de la vie auparavant.
On est complètement conscient que ça se passe dans un moment comme ça, restreint, dans une petite bulle en dehors du monde, où l'enfant est avec moi et on fait des trucs. Voilà. Je lui explique un peu que peut-être c'est différent de ce qu'il croit, etc. Je suis bien d'accord que c'est bien ce que je pense Jean-Claude a essayé d'expliquer. On n'a pas la clé de tout et tout ça, on n'a pas trop de prétentions. Mais on se dit qu'en fait, il faut peut-être commencer par là, montrer que dans ces situations un petit peu spéciales, ça marche, pour après peut-être essayer d'appliquer ça à la vraie vie, en fait, dans les vraies classes, avec des vrais gens, des vrais enseignants, des vrais élèves. Voilà, c'est des vrais élèves aussi, mais... Voilà, en fait, c'est pour nous, c'est la première étape. Il faut montrer déjà que ça marche dans ces situations qui sont peut-être les plus favorables. Et pour après, peut-être s'il y a des enseignants qui veulent travailler avec nous, peut-être si les autorités veulent nous écouter un petit peu, on essaiera d'appliquer ça pour de vrai. Voilà.
Oui. Je veux bien rajouter quelque chose. Je suis désolé d'être bavard, mais comme Frédéric l'a dit, on est en fait à 400% d'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas... je ne pense même pas un seul instant qu'avec ça, on va régler... Enfin, le gros problème. Ce qu'on veut ici, c'est démontrer que c'est possible. C'est-à-dire qu'en fait, qu'une part de la performance s'explique par des effets de situation. Bien entendu, il est clair que quand on est scolarisé, qu'on a 14 ans, par exemple, et qu'on a déjà fait une bonne partie de sa vie dans l'éducation, dans le système scolaire, on a appris énormément de choses. On a appris des choses qui peuvent être... on a appris des contenus, mais on a aussi appris un certain rapport au savoir, on a appris à se comporter d'une certaine manière à l'école, etc. Et ce n'est pas des choses qu'on peut effacer. Enfin, je n'y crois pas du tout un seul instant. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, que ce qu'on observe au niveau de la performance, ça transporte énormément de choses. C'est vraiment déterminé par beaucoup de choses. Et ces effets de socialisation sont clairs et durables. Donc, moi, je souhaite que des enseignants soient soucieux du climat évaluatif qu'ils créent dans leur classe, qu'ils créent des situations de classe qui soient plus favorables à l'apprentissage des élèves. C'est-à-dire qu'ils soient plus favorables pour accueillir les élèves qui sont en difficulté. Et je pense qu'on peut changer des choses. Je pense que vraiment, les enseignants peuvent mettre au point, utiliser des stratégies. Ça ne va pas régler quand même le fait qu'on demande explicitement aux enseignants de faire des classements. Ça ne va pas en fait occulter, enfin, le fait qu'à un moment donné, des adultes vont se réunir dans une salle, autour d'une table, comme ce soir par exemple dans la classe de mon fils de 6e, pour en fait remplir les bulletins scolaires. Les bulletins scolaires, quand on y pense bien, qu'est-ce qui se passe sur un bulletin scolaire en fait ? On a des indicateurs de performance et puis en fait des enseignants qui établissent une correspondance entre ces indicateurs de performance et puis un élève. Et si vous prenez le bulletin scolaire, vous avez tout un ensemble de remarques fondées, certaines très fondées, d'autres peut-être moins, je ne sais pas, mais qui en fait lient complètement un niveau de performance avec un élève. Et ce que nous on essaie de faire passer, c'est que non pas que ça c'est complètement faux, mais qu'on est en lieu de s'interroger sur un certain nombre de petites dynamiques qui opèrent dans une salle de classe et puis qui peuvent créer des écarts et parfois des écarts conséquents. Donc on n'a pas la solution, ça c'est sûr. On ne va pas effacer tout ce qui se passe à l'école et autour de l'école. On n'a pas la prétention, et je crois que c'est une erreur qu'on a eue beaucoup, les gens qui ont réfléchi à ces questions-là, c'est de croire que en fait, le problème de la société, c'est un problème qu'on devait régler à l'école. Et que l'école était là en fait pour corriger des inégalités qui existent déjà. Je pense qu'on n'est pas complètement dupes. Je crois que l'école ne peut pas résoudre des problèmes d'inégalité qui ne sont pas des problèmes d'égalité, qui ne sont pas des problèmes d'école. Donc, elle contribue à quelque chose, mais elle participe en fait dans un environnement qui est bien plus complexe et général que simplement la salle de classe. Donc je suis, enfin, vraiment, quand je disais 400%, au moins 400% d'accord avec ce que vous dites. Il y a des effets de socialisation qui sont très forts, et là, on va pas du tout les renverser, quoi.
Est-ce que, du coup, vos travaux tendraient à montrer que l'évaluation nuit à l'apprentissage, enfin, ou peut-être du moins, on pourrait vous donner peut-être des pistes pour éviter ce travers de l'évaluation, mais du coup, il me semble que... voilà. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur le rapport entre apprentissage et évaluation? Est-ce qu'il faudra en faire moins souvent, pas en essayant, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas en faire moins? Est-ce que en tout cas, vous avez un mot à dire là-dessus?
En fait, tout ça, c'est des questions qui sont vraiment super compliquées, qui sont vraiment très complexes. Alors, ce que je vous dis là, c'est je suis sans filet là. Je pense que cette croyance qui est que l'individu est le siège de son niveau, enfin, est à l'origine de son niveau de performance, c'est une croyance qui a énormément de conséquences. La première conséquence, c'est qu'elle nous contraint à être obsédés par la sélection. C'est-à-dire, en fait, quand on est parent, quand on est enfant, quand on est enseignant, en fait, on devient obsédé par la sélection. C'est-à-dire, on veut être sûr que nos enfants, ou on veut être sûr qu'en tant qu'élève, ou on veut tenter en tant qu'enseignant, que les élèves, en fait, feront partie de ceux qui seront dans la bonne partie de la pyramide. Et on passe énormément de temps dans nos sociétés, en fait, à essayer de sélectionner les meilleurs, ou à identifier les meilleurs quand on offre une offre d'emploi. Eh bien, en fait, il y a des cabinets de recrutement, pour certaines entreprises, etc. Et on va essayer de retrouver le bon élève, le bon candidat. Quand on fait ça, on passe beaucoup de temps à, en fait, illustrer, à créer au quotidien, en termes de pratique, eh bien, à donner de l'existence à cette croyance, à cette idéologie, que c'est au niveau de l'individu que les choses se font. Et donc, on peut trier les individus comme ça. Si on passait moins de temps, mais ça, c'est plus qu'une petite réformette, ça, hein, et puis c'est pas quelque chose qu'on peut implémenter comme ça, mais si on part de l'idée que, en fait, ce que les gens produisent en termes de performance, en termes d'expression des compétences, c'est quelque chose qui est très sensible aux effets, à la situation, à l'environnement, à ce moment-là, plutôt que de se focaliser sur la sélection, on peut penser plutôt à ce qu'on va appeler des effets de traitement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire apprendre à des gens ? Comment est-ce qu'on peut faire apprendre certaines notions ? Comment est-ce qu'on peut prendre des gens qui ne savent pas lire ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à apprendre à lire ? Donc on n'est plus du tout dans la même logique. On n'est plus dans une logique où le but, c'est de repérer, de trier les gens, de les ranger dans des petites cases, etc. C'est de se dire comment on aménage les situations pour faire apprendre. Donc l'évaluation, si c'est une évaluation en fait, qui est de l'individu, ou si l'individu prend ça c'est mon évaluation, c'est ma médaille ou c'est ma croix, eh bien ça va créer des effets qui sont les effets dans lesquels... Si maintenant l'évaluation, c'est-à-dire on donne aux gens un retour sur leur performance, mais en fait on ne met pas du tout en doute leur valeur, c'est plus du tout la même évaluation. Donc il y a évaluation et puis il y a une autre forme d'évaluation qui est profitable. D'ailleurs, quand on fait un apprentissage, alors quand on fait du vélo, l'évaluation, le retour sur l'apprentissage, on l'a très vite parce que si on tombe et qu'on se fait mal, etc., on comprend que on ne sait pas encore bien en faire. Mais il y a tout un tas de situations. Moi, je prends souvent l'exemple de l'enseignement des statistiques, par exemple, où en fait, on ne sait pas, on a beaucoup de mal à évaluer si on sait très bien ou si on sait un peu, on arrive plus ou moins, etc. Et donc, l'évaluation est nécessaire. Mais si cette évaluation, c'est « t'es vraiment un gros benêt, mon fils, et tu n'y arriveras pas », c'est clair que ça ne va pas faciliter l'acquisition et l'orientation vers... Et d'ailleurs, c'est le problème que l'on a avec les enfants qui sont en grande difficulté, c'est qu'ils n'aiment pas l'école, mais ils ont raison. Enfin, ils ont vraiment raison de ne pas aimer l'école, parce que l'école, ils vont à l'école, et puis chaque jour, l'école leur envoie une image qui est très négative. Enfin, moi, je souhaite ça pour personne. Hein. Voilà, on pourrait faire ça. Pourquoi on le fait pas? Parce que il se trouve que il y a bien des gens qui l'ont fait, mais quand même il y a quand même pas mal de travaux qui suggèrent que l'école aussi elle a cette fonction qui est de trier un peu quand même. Oh non, il y a d'autres pays. Je connais par exemple. Non, mais il y a d'autres pays. J'en connais quelques autres, notamment les États-Unis où on le fait. Très bien aussi. Hein.
Bon. Donc, un commentaire.
Il est là.
C'est moi. Donc, d'abord, un commentaire. Ce que vous avez trouvé en termes de réseau sémantique ressemble un peu à ce qu'on a en sciences pures. Donc, des ressemblances au principe d'Heisenberg, qui dit essentiellement que toute mesure tend à modifier le système qu'on essaie de mesurer. Et donc, l'évaluation modifie les résultats de l'évaluation. Donc, le processus même d'évaluation modifie le résultat de l'évaluation. Donc, ça, c'est la partie intéressante. Donc, ce que je retiens de votre présentation, c'est que ce n'est pas qu'il n'y a pas de différence entre les gens, c'est qu'il y a peut-être moyen de faire disparaître certains effets qui nuisent à une évaluation véritable. Parce que ce qu'on mesure, ce n'est plus vraiment le niveau d'apprentissage de l'enfant, mais une mesure qui est faussée par le processus même de la mesure. Donc, c'est d'essayer de retrouver une mesure un peu plus vraie. Je soupçonne qu'elle ne sera jamais vraie. C'est presque impossible. Donc, je vais dire ça parce que impossible n'est pas français, semble-t-il. Donc, mais l'idée, c'est qu'on peut travailler sur certains aspects. De croire que tout le monde va faire 100 sur 100 ou 20 sur 20, employez votre système. Bon, vous devinez que je ne viens pas de France avec des expressions comme 100 sur 100, donc je viens d'Amérique du Nord. Et on a des problèmes similaires. Okay. Il y a des études aussi qui ont été faites qui donnent à peu près le même genre de résultats. Par exemple, l'étude où on essaie de comparer les résultats des enfants d'une même famille, donc le premier-né versus le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Donc, le premier de famille, habituellement, le premier-né a toujours des meilleurs, a souvent des meilleurs résultats que les suivants. Mais c'est peut-être parce qu'on compare toujours le deuxième avec le premier. Et donc, on impose la même tyrannie de la comparaison. Voilà. Au suivant, comme dirait Jacques Brel.
Oui, je voulais simplement dire que j'étais très intéressé par ce que vous avez présenté tout à l'heure, parce que c'est un petit peu iconoclaste, et c'est très intéressant parce que ça nous permet de réfléchir sur un problème fondamental. Alors, il y a beaucoup d'enseignants ou de futurs enseignants dans la salle. Un problème fondamental que l'on rencontre dans la scène la plus paroxysmique du système éducatif, qui est le conseil de classe. Bon, je suis chef d'établissement, j'ai dû faire des conseillers de classe pour 520 classes depuis le début de ma carrière, il y a 26 ans. Donc j'ai eu le temps de comparer en étant à la fois acteur et parfois maladroit, et puis en même temps en ayant un regard un peu d'entomologiste sur le fonctionnement du conseil de classe. Ce que vous avez apporté est intéressant, mais je voudrais relever une petite erreur qu'il nous faudrait ne pas commettre, que plusieurs personnes ont dit, et vous-même, je crois, M. Croiset, à un moment donné, une petite allusion à l'administration qui pourrait mettre en place des nouvelles mesures, etc. Je crois que ce que vous avez apporté, c'est un regard nouveau qui permet de changer les comportements de chacun. Et ça ne peut être fait que s'il y a une intériorisation un petit peu de cet apport dans nos comportements. S'il y a une circulaire pour le mettre ça en place, bon, je pense qu'on obtiendra rapidement l'effet contraire par blocage ou par passivité. Parce qu'en fait, il faut changer le comportement de chacun et c'est très difficile parce qu'on est programmé depuis qu'on est enfant, parce qu'un enseignant est un ancien enfant qui n'a pas quitté l'école en général. Et c'est un ancien bon élève aussi, c'est-à-dire avec tous les guillemets qu'on met dedans. Donc il a été formaté, il a été considéré comme bon élève, il a bien intégré ça par sa famille, par ses professeurs. Il devient lui-même enseignant et il rentre dans le système inconsciemment. Et c'est très dur pour lui de résister. Bon, certains font des choses, hein. Certains font des choses pour faire évoluer les pratiques, mais ça ne peut être qu'une évolution de chacun. Peut-être que la formation des enseignants serait améliorée si on pouvait réfléchir un peu plus sur ce type de problème-là et moins sur les contenus disciplinaires. C'est très bien, les contenus disciplinaires, mais ce qui est important aussi, c'est de pouvoir amener à réfléchir un petit peu sur le type de réaction. Tout à l'heure, la dame qui est un petit peu à ma droite, là, me disait qu'elle faisait part de son expérience quand elle est rentrée en prépa. Oui, bon, c'est extraordinaire, les prépas, c'est des très bons élèves qui ont eu un bac avec des mentions à faire pâlir tout le monde et qu'on a félicité le 3 juillet, sont humiliés, écrasés, écrabouillés le 15 septembre par les premiers contrôles des enseignants dans les prépas. Et ils découvrent que l'on peut être en tête de classe et redevenir après tout à fait au fond de l'abîme. Et c'est vrai que là, dans tous les échelons du système éducatif, on pratique des choses qui méconnaissent parfaitement ce que vous avez donné là. Hein. On croit que effectivement l'idée reçue que vous avez dénoncée à un moment donné est vraie. Elle est partiellement vraie, elle a des choses vraies à l'intérieur. Mais il y a beaucoup à faire si on veut changer les choses. Je crains qu'on n'y arrive pas, je vous le dis de suite.
Oui, bon, je profite du fait d'avoir le micro. Je trouve que ce qui s'inscrit en creux en ce moment, c'est une question qui n'est pas évoquée, mais qui est vraiment une question, la question politique. C'est-à-dire que, bon, ce qui vient d'être dit, c'est qu'on éventuellement pourrait changer les choses, ça pourrait être le début, etc. Je ne pense pas qu'on en soit à l'an zéro de la prise en compte de la notion de handicap socioculturel, enfin de sa dénonciation, et qu'il y a eu des époques où, effectivement, ce qui a été apporté par des recherches, les enseignants s'en sont emparés et ont fait progresser sur le terrain les pratiques, le changement des pratiques pédagogiques. Mais je pense que pour qu'on s'empare d'apports comme cela, il faut qu'il y ait un militantisme et une envie de changer, et je ne pense pas, et un contexte politique, et je ne pense pas qu'on en soit, qu'on soit dans le meilleur. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ça passe par là, et que ça ne passe pas forcément par une administration qui serait sympathique et qui prendrait en compte des apports et qui, par voie de directive, les imposerait aux enseignants pour qu'ils les appliquent. Ça ne marche jamais. Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Bonjour, moi je voudrais savoir, en parlant de solutions, parce qu'on parle beaucoup de causes, mais il faut trouver des solutions, il y a beaucoup d'écoles qui commencent, enfin beaucoup, pas tant que ça, qui commencent à mettre en place des systèmes sans notation, avec des items, par exemple en maths, c'est faire un triangle rectangle, c'est faire un triangle isocèle, des choses très concrètes. Et on y marque acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Il n'y a pas de notes, ou bien des petites gommettes de couleurs, et l'élève sait ce qu'il a à travailler ou à revenir dessus. Je voudrais savoir si c'est un bon moyen, puisque là, il n'y a pas de comparaison en l'occurrence, enfin, même si on peut en trouver quand même après. Pour que les élèves se sentent plus à l'aise et ne visent pas la note, mais la compétence en elle-même. Et si c'est possible à mettre en place à long terme, enfin, pas que dans une classe ou dans une école, mais aussi dans tout un système scolaire, puisque beaucoup d'écoles, de collèges fonctionnent pour passer à un niveau supérieur, une classe, il faut avoir telle moyenne ou... Donc, est-ce que c'est possible à mettre en place et est-ce que vraiment ça peut avoir des effets positifs?
En fait, ce que vous évoquez, c'est une évaluation qui est plus basée sur les compétences, en fait, où on va effectivement expliquer aux enfants qu'il y a différentes compétences à acquérir et puis donc ils sont en phase d'acquisition de ces compétences et on va leur donner des petits signaux pour qu'ils se situent dans l'apprentissage de ces compétences. Donc, c'est très difficile de répondre à votre question. Ce que je pense, et peut-être que je me trompe un peu, mais vous n'hésiterez pas à me corriger, mais les enfants sont très très forts pour apprendre très tôt et très rapidement dans un contexte. De quelle manière on les évalue? Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que des fois, on peut se donner beaucoup de mal en tant qu'enseignant ou même en tant que parent pour donner aux enfants des informations, des renforcements, mais des feedbacks sur les compétences, sur leur niveau d'acquisition. Et ils ont, parce qu'ils ont été formatés à ça, à l'école quand même, hein, ils sont vraiment capables de percevoir très très vite où ils se situent dans la hiérarchie, dans la classe. Je vais vous donner un exemple. J'ai travaillé avec des collègues enseignants. J'ai une enseignante qui, en fait, a refusé de, elle était en primaire, donc elle pouvait se le permettre, d'évaluer les enfants. Donc, elle mettait des appréciations. Donc, elle n'utilisait pas du tout de notes. Donc, elle n'utilisait pas de métriques. À son idée, c'était en fait d'éviter que les enfants se lancent dans ces comparaisons des uns et des autres. Et en fait, très très rapidement, elle s'est rendue compte que les enfants avaient eux-mêmes, ils ont été formés un petit peu à extraire cette valeur, étaient capables de dériver la métrique qui était derrière tout ça. Par exemple, ils se disaient, t'as combien de très bien, toi ? Ou en fait, t'as combien de sourires ? Ou t'as eu combien de pastilles jaunes ? Et donc, en fait, j'espère que en fait, j'arrive à être clair, mais je ne dis pas que c'est pas une, que c'est, je ne dis certainement pas que c'est une mauvaise idée de pratiquer comme ça. Je crois que d'insister sur les compétences, on est plus dans une logique qui est effectivement ce qui est important, c'est l'apprentissage et tu es en train d'apprendre des choses. Donc ça, je pense vraiment que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut, on va pas trouver une solution miracle. Hein. Il est clair que les enfants, ils étaient dans une salle de classe avant, probablement ils le seront après, et qu'ils ont comme ça une certaine expérience déjà de ce qui est attendu à l'école, et ils savent que, il y a des classements, ils savent que, donc ils cherchent un peu à trouver une position, parce qu'on leur a appris que c'était très très important. Ils ont vu que quand ils réussissaient bien, mes collègues ont fait des études, par exemple, où ils enregistrent le comportement des enseignants dans les salles de classe. Et ils montrent des choses tout à fait saisissantes, c'est que les enseignants, sans le savoir, de manière tout à fait inconsciente, sont très influencés par la position des élèves dans la hiérarchie lorsqu'ils interagissent avec les élèves. Par exemple, les travaux ont montré que les enseignants avaient tendance à sourire plus souvent, aux élèves en fait, qui sont bien placés dans la hiérarchie de la classe. Ces travaux ont montré, mais alors il faut faire des enregistrements vidéo, faire des mesures, etc., ont montré que les enseignants qui participent à ces études, alors des échantillons, etc., avaient tendance à être physiquement plus proches des élèves en fait, qui étaient bien situés dans la hiérarchie scolaire. Il y a tout un tas de petits indices comme ça. Et les enfants perçoivent... Il y a tout un tas de caractéristiques. C'est peut-être pas dans la nature humaine, mais culturellement, c'est effectivement très prégnant dans notre société.
Non mais.
Il y a d'autres cultures.
Ouais, mais j'ai une question, s'il vous plaît. Une dernière question, là. Petite question. Non, mais parce que. Ouais, pardon, j'ai une question. Parce que là, vous avez dit qu'il y avait un cercle négatif, enfin, pour ceux qui sont en échec, bon, bah, c'est un cercle. Et mais pour les autres qui sont, par exemple, qui ont des bons résultats, est-ce qu'il y a un cercle positif, c'est-à-dire que leurs résultats, ils vont toujours en croissement ou ils se maintiennent en tête. Et puis, une deuxième truc, c'est parce que moi, je trouve que vous avez trop parlé d'intelligence. Hein, parce que le scolaire, c'est surtout, pour moi, c'est l'intelligence, d'accord, mais c'est surtout la mémoire. Et l'observation, parce que je ne vois pas pourquoi vous parlez toujours d'intelligence. Pour moi, le scolaire, c'est faire des... Voilà. Mais avec mes questions, est-ce que c'est renforcer le cercle positif chez les gens qui sont en tête de classe ? Voilà.
Un peu oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gain, bien sûr, à être bien placé dans la hiérarchie scolaire. On gagne en confiance en soi, si je peux appeler ça comme ça. Donc on est plus volontaire pour prendre des risques. C'est-à-dire qu'on est moins stressé quand on va au tableau, parce que en fait, on a moins à perdre. Hein. Si on se trompe, si on fait on sait quand même qu'on a de nombreuses expériences de réussite et que ça aide. Donc c'est vrai que les élèves qui sont en situation de réussite bénéficient de cette situation de réussite et que c'est un effet positif sur leur réussite. Maintenant, et si je reprends l'exemple des classes européennes, où vous évoquiez les classes préparatoires, un élève qui est en réussite, c'est simplement un élève qui est bien placé dans une hiérarchie. Maintenant, il change de classe, il peut se retrouver dans une autre hiérarchie, et alors là, il va se mettre à fonctionner comme quelqu'un qui était mal placé dans sa classe précédente, avec exactement les mêmes mécanismes. Alors, Ça, c'est la première chose. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence et que, je dois l'avouer, je fais un peu une fixation sur ce concept. Vous dites que la mémoire est très sollicitée et vous avez raison, mais les scientifiques qui étudient l'intelligence, en fait, font pas de grosse différence entre... Enfin, je ne devrais pas parler comme ça, mais disons que les gens qui étudient l'intelligence considèrent que ce que vous appelez la mémoire, c'est une part importante ou une part non négligeable de ce qu'on appelle aussi l'intelligence. Donc, quand je parle de l'intelligence, c'est parce que dans le langage courant, c'est quelque chose auquel on a recours pour... Alors, les enseignants ne disent pas... Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui disent ça, en tout cas, s'il y en a qui le disent. Ils ne disent pas à leurs enfants, alors toi, tu es vraiment intelligent, et puis toi, tu n'es vraiment pas intelligent. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui le disent, mais... Il y a une autre façon de dire exactement ça, mais de manière plus subtile, plus feutrée, mais qui fait véhiculer que ben, toi, tu as des facilités, lui n'a pas des facilités. Ça veut dire, toi, t'es équipé pour faire des trucs que les autres n'arrivent pas à faire. Et ça rejoint donc cette croyance, ce que j'ai appelé une théorie naïve, mais qui n'est pas complètement naïve, parce qu'elle remplit une certaine fonction sociale. Mais ça rejoint ça. Donc, on parle beaucoup du concept d'intelligence, parce que, en référence un peu avec cette idéologie un peu du mérite. Mais vous savez, je prends cet exemple, et il y a des travaux qui montrent que, par exemple, il y a des enfants, notamment des travaux qui ont été faits avec les enfants de rue. Les enfants de rue, notamment, je pense à des recherches qui ont été faites au Brésil, et qui montrent la chose suivante, c'est que si on demande à des enfants qui travaillent dans la rue, donc qui vendent, des petits vendeurs, de réaliser des opérations arithmétiques, du genre, je t'achète 3 melons, je te donne 10 cruzeiros, tu me rends combien, chaque melon coûte ça, etc. Donc, avec des interactions verbales, les travaux montrent que les enfants arrivent à résoudre les problèmes avec un certain niveau de performance. Si on leur pose les mêmes problèmes dans le cadre scolaire à l'écrit, en fait, c'est une catastrophe. Donc, ça montre qu'une chose, c'est que, d'abord, ce qu'on mesure à l'école, on n'est pas sûr du tout que ce soit en fait, une bonne mesure de l'intelligence. Mais qu'en tout cas, tout ça, c'est très, très spécifique aux situations. C'est-à-dire que des élèves peuvent être très, très forts à faire quelque chose et être très en difficulté à faire ce même quelque chose, mais sous une forme un petit peu modifiée, dans un contexte plus scolaire. Parce que le contexte scolaire, eh bien, transporte un certain nombre de choses, véhicule un certain nombre de choses qui déclenchent des dynamiques. Alors, la comparaison n'explique pas tout, mais ce qu'on a voulu essayer de faire passer ce soir, c'est que ça jouait un petit peu, au moins un petit peu.
Une petite question, mais avant, il y a une assez longue intro. La première chose, c'est j'ai envie de vous dire bravo pour votre présentation à trois voix, très claire et sympa.
Merci.
La deuxième chose, c'est sur cette diapo, il y a le mot « attention ». Et je trouve que c'est important de porter de l'attention aux autres, en tant qu'éducateur, en tant que parent, etc. Et je trouvais que dans ce qui se passait dans cette salle tout à l'heure, où il y avait un peu d'ambiance, ça montrait que ce n'était pas facile d'être toujours à écouter les autres en respectant la prise de parole, la tour de rôle. Et c'est important. Sur le mot motivation, il me semble que moi je travaille plus dans l'éducation et l'environnement, mais quand les personnes avec qui je travaille n'accrochent pas, ce n'est pas un problème de motivation de leur part, c'est plus un problème de démarche pédagogique et d'outils d'animation qui ne sont peut-être pas adaptés. Donc ça, c'est un aspect à creuser. Sur le mot performance, ça me fait un peu trop penser à Jeux Olympiques et trucs comme ça. Peut-être qu'il faudrait aussi voir des performances plus qualitatives, esthétiques. Il y a aussi des activités comme ça, ce n'est pas seulement des chiffres, etc. Et c'est vrai que bon, j'écoutais le chef d'établissement, il y a un travail qui est long à faire et c'est pas une directive ministérielle qui va changer les choses. Cela dit, quand il y a 4 ans à peu près, le ministère de l'Éducation nationale disait qu'il fallait replacer les savoirs au centre du dispositif éducatif, et ma voisine qui va me prêter son paquet là, pour moi illustre le fait que c'est pas parce qu'on sait qu'on change de comportement. Et c'est une mais moi j'ai aussi mes dépendances, hein, donc c'est pas une critique par rapport à ça. Mais ne mettons pas trop que sur la cognition, l'apprentissage, la capacité à reproduire, des trucs comme ça. Parce qu'il y a un enjeu pour moi, et surtout dans la société actuelle, avec la crise actuelle globale, c'est de pouvoir être créatif pour pouvoir créer son espace dans le monde actuel. Mais si on fait, et je l'ai entendu de la part d'une dame avec ou sans micro tout à l'heure qui parlait de moutons, ça convient tout à fait à un gouvernement d'avoir des moutons dans un pays, ou un gouvernement relativement autoritaire, en tout cas qui veut vraiment mener de manière plus ou moins démocratique. Donc ça peut arranger tout à fait un gouvernement d'avoir des moutons et d'avoir un système éducatif qui va contribuer à avoir des moutons. Alors après, chacun le prend un peu comme chacune le prend comme il veut, mais effectivement, j'ai plus envie de travailler sur de la coopération. Et la question était... alors, juste un petit truc. Il y a un texte de Saint François d'Assise, donc 5 siècles, qui parle de la comparaison entre des personnes. C'est une dizaine de lignes, mais qui illustre assez bien ce que vous avez présenté avec vos expériences. En gros, la comparaison élève quelques-uns et puis écrase beaucoup d'autres, quoi. Mais bon, il faudrait que je le retrouve. Et donc j'ai envie d'insister aussi sur les notions de plaisir et d'être content de soi, de ce qu'on a fait dans un exercice. Et la question, c'est est-ce que vous envisagez de faire ces recherches par rapport à d'autres systèmes éducatifs? Je pense entre autres aux écoles Steiner, aux mouvances plutôt Montessori ou Freinet. Parce que dans les écoles Steiner, je ne suis pas sûr qu'il y ait, je ne connais pas tellement, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait ce système de classement et de conditionnement dès l'enfance à être le premier. Moi, je connais des enfants qui ont 25 ans maintenant, qui ont fait tout leur cursus depuis l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans dans les écoles Steiner. L'un est musicien à Berlin, dans l'orchestre de Berlin. Alors, est-ce qu'il y a un classement dans l'orchestre? Oui, il y a le chef d'orchestre et puis il y a les autres. Mais je crois qu'il est content de jouer dans le groupe avec son violon. Et j'ai plus envie d'insister là-dessus. Ce qui me semble important, c'est que chacun soit content de ce qu'il fait dans son monde ou sur cette petite planète, et pas seulement de savoir... Mais c'est vrai qu'il y a un culte, une culture du numéro, de classement. Vous vous rappelez de la question, toute petite, là, sur éventuellement travailler avec d'autres courants éducatifs?
Peut-être une réponse par rapport...
Non, on n'a pas. Enfin, voilà. On l'a pas fait. Ça sera intéressant. Je connais pas suffisamment ces écoles pour pouvoir dire que il n'y a pas des phénomènes de contexte évaluatif ou qui ont d'autres formes, hein, ou que ces dynamiques s'expriment pas sur une autre forme. Mais donc, je serais assez curieux d'aller déjà observer dans ces classes pour voir un petit peu comment ça se passe, afin d'évaluer si ce serait une bonne piste à explorer. C'est sans doute une bonne piste à explorer, mais je ne connais pas suffisamment ces écoles pour pouvoir répondre. Je suis désolé.
Merci au public pour ces nombreuses questions. Bonne fin de soirée à tous. À bientôt.